Alors nous sommes très heureux et honorés d'accueillir donc aujourd'hui Jocelyn Benoît, qui est professeur des universités, donc à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est non seulement professeur, mais aussi, quitte à ce que je heurte sa modestie naturelle, un des grands penseurs, philosophes français de notre temps, et dont l'itinéraire est tout à fait original. Et il me semble que cette originalité va lui permettre de synthétiser, peut-être, pour nous autres, cette question qui nous occupe, à savoir celle de l'a priori, hein, depuis la première séance, donc, kantienne, à l'avant-dernière, à laquelle, malheureusement, je n'ai pas pu assister, sinon à distance, qui aura porté sur Husserl, Quine et le naturalisme en mathématiques. En passant par les post-kantiens, Schelling et Fichte, Hegel, pardon, et Fichte, et quelques philosophes russes aussi. Alors, si je résume, permettez-moi de résumer, à supposer que ça soit possible, votre trajectoire philosophique qui vous a conduit de la phénoménologie, dont vous êtes un éminent spécialiste, un éminent représentant, phénoménologie husserlienne notamment, mais non pas exclusivement, vers une interrogation depuis environ les années 2000, mais vous me contredirez si je dis des bêtises, interrogation sur le réalisme qui a permis un développement autour d'un réalisme que vous nommez donc contextualiste, sur lequel peut-être nous reviendrons pendant la discussion, interrogation qui sera passée par ou aura nécessité un dialogue entre la phénoménologie et la philosophie analytique, focalisée d'abord dans un premier temps sur la dimension sémantique de l'intentionnalité. Sur la phénoménologie, vous avez écrit un nombre d'ouvrages considérables que je ne vais évidemment pas tous citer, mais je vais quand même en citer 3 ou 4, ne serait-ce que à destination des étudiants. En 1994, donc, autour de Husserl, L'ego et la raison, publié chez Vrin. En 1997, Phénoménologie, sémantique, ontologie, Husserl et la tradition logique autrichienne. Un autre livre qui nous intéresse directement, c'est l'a priori conceptuel, Bolzano, Husserl et Schlick, en 1999, ou encore, et je m'arrêterai là, pour ce qui est de la phénoménologie, l'idée de phénoménologie chez Beauchesne en 2001. Vos deux derniers livres en date sont l'un édité, donc écrit hein, en allemand, Von der Phänomenologie zum Realismus, dont vous m'avez dit il y a un instant qu'il allait paraître à l'automne prochain.
En avril.
Oui, en avril, donc au printemps, excusez-moi, prochain, qui à lui seul, dont le titre à lui seul résume votre parcours, hein, depuis la phénoménologie, de la phénoménologie au réalisme. Et puis il y a un deuxième livre paru cette fois l'an dernier, en 2021, chez Harvard University Press, qui s'intitule, livre écrit en anglais, Toward a Contextual Realism, hein, vers un réalisme donc contextuel. Alors, c'est une phase de votre travail. Je vais évidemment pas prendre trop de temps, mais j'aimerais quand même en dire un mot, qui est lié donc à ce qu'on appelle le contextualisme anglophone, en particulier celui de Charles Travis, qui est l'auteur, par exemple, de Unshadowed Thought, hein, qu'on pourrait traduire la pensée sans ombre, ou Silence of the Senses, de d'Austin aussi, l'auteur de, par exemple, Qu'en dire, c'est faire, et bien sûr de Wittgenstein, avec la notion décisive donc de jeu de langage chez Wittgenstein, que vous remobilisez comme un outil hein, contextualiste propre à travers la notion de norme. Alors, je me garderai bien ici de résumer ce réalisme dit contextualisme, mais je dirais seulement à destination au moins des étudiants, qu'il se démarque à la fois du réalisme dit spéculatif, par exemple d'un Quentin Meillassou, hein, qui a écrit, fait paraître en 2012 au Seuil ce livre qui s'intitule « Après la finitude », mais aussi de celui du philosophe allemand Marcus Gabriel, auteur notamment de « Pourquoi le monde n'existe pas ?» Et vous dites dans un entretien que c'est cette dernière forme de réalisme n'est pas la vôtre, qu'elle ne vous semble d'ailleurs pas compatible avec une exigence réaliste à proprement parler, ou qu'elle constitue une forme d'ultra-libéralisme ontologique. Bon, en tout cas, si je résume votre position, hein, c'est pour vous sur le terrain de l'énonciation que tout se joue, autrement dit ce qui est contextuel, hein, dans l'expression de réalisme contextualiste, c'est le rapport de nos énoncés avec la réalité et les normes, ou les normes plurielles mobilisent le sensible, elles ne sont pas, hein, dans le ciel platonicien. Hein, vous dites qu'au fond, il n'y a de normes que là où il y a du réel, que là où le réel peut être utilisé d'une telle façon que la norme puisse s'appliquer au champ de réalité en question. Bon. Alors, ce travail, votre travail, est rassemblé, hein, si je puis dire, dans un ensemble de grands textes qui sont parus. Alors, j'en citerai trois ou quatre. Je pourrais faire circuler éventuellement... en faire circuler quelques-uns. Alors, c'est notamment Concept, au Champ Flammarion, en 2010, mais aussi Le bruit du sensible, paru en 2013, La logique du phénomène, paru en 2016, et en 2017, L'adresse du réel. Alors, dans ce dernier livre, L'adresse du réel, vous écrivez notamment que faire de l'apparaître, la mesure a priori de l'être, reviendrait à succomber à the phenomenological fallacy, l'erreur donc phénoménologique. Et donc vous insistez en particulier sur la différence, qui pour vous est une différence de catégorie, entre le simple être des choses et la dimension de la norme comme ce qui qualifie de le réel, lui donne une certaine valeur. Bon, bref, je n'irai pas plus loin. Désormais, donc, vous ne cherchez pas, ou peut-être plus, je ne sais pas, à amender ou à réformer la phénoménologie. Il suffit de lire le chapitre 6 de votre adresse du réel, qui est intitulé de façon éloquente « Requiem tintamarre » pour une phénoménologie, pour en être convaincu. Hein, et donc, vous développez votre propre recherche autour de ce réalisme que vous dites contextualiste, que vous nommez contextualiste, et qui ne va donc pas sans une critique, une certaine critique de l'idéalisme. Et c'est précisément de cet idéalisme, et plus particulièrement de l'a priori dans l'idéalisme moderne, idéalisme moderne, pardonnez-moi, je ne résiste pas, dont vous nous dites toujours dans l'adresse du réel, page 75-76, qu'il est faux à tous les étages. Et donc, nous sommes très impatients de vous entendre, et nous vous remercions encore une fois grandement pour avoir accepté l'invitation.
Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation. Bon. Qui m'impressionne beaucoup. Bon, je pense qu'elle est très exacte dans la dimension descriptive, en tout cas de ce que j'ai essayé de faire. Et en même temps, elle m'embarrasse beaucoup parce que bon, j'étais embarrassé de toute façon à faire cet exposé sur ce sujet, parce que bon, de fait, c'est des questions qui ont glissé un petit peu loin de moi. Donc, c'était pas évident pour moi de m'y resituer. Mais en même temps, je suis de plus en plus embêté finalement par le rappel que vous venez de faire des choses qui effectivement m'ont occupé les dernières années. Dans la mesure où, bon, il y a comme une attente d'une connexion entre ce que je vais dire sur l'a priori et puis ces questions qui m'occupent depuis quelques années. Or, je pense pas que dans mon exposé, la connexion sera très présente. Donc, j'ai préféré vraiment travailler sur la question de l'a priori, puisque c'était là-dessus que vous m'attendiez. Bon, ça représentait un certain effort pour moi, parce que c'est de fait tout de même des questions un peu lointaines. Alors, j'avais été conduit même à re-regarder mon vieux livre, il y a plus de 20 ans, maintenant, sur l'a priori conceptuel, parce que je l'appelais a priori conceptuel, aussi parce que vous m'y invitiez dans votre message initial, et je dois dire qu'en relisant ça, j'étais assez épouvanté. Je trouvais ça très, très, très mauvais. Pas forcément, d'ailleurs, au sens d'un désaccord sur la thèse par rapport à la question de l'a priori. Je suis même pas sûr. Enfin, en un sens, c'est en deçà du désaccord. C'est que, franchement, bon, c'est des choses qui ne me parlaient plus beaucoup. Je n'arrivais pas vraiment à comprendre, au fond, l'intérêt de ce que j'avais essayé de faire là-dessus. Donc, bon, revenant au fond à la question, hein, de façon tout à fait scolaire, je voudrais repartir des bases et essayer de juste proposer quelques remarques un petit peu éparses sur cette notion d'a priori, la question de l'a priori, puisque c'est ce qui vous occupe cette année. D'abord, je pense qu'il y a un point, évidemment, dont il faut partir, hein, qui est un point vraiment essentiel dans sa simplicité, ça a l'air d'aller de soi, mais en réalité, il ne faut pas le perdre de vue, c'est qu'on a affaire à un concept polaire. Donc on a affaire à un concept qui est structuré par une polarité, pas d'a priori sans a posteriori. Hein. Ce qui constitue la pertinence du concept d'a priori, c'est ce rapport d'opposition polaire à un a posteriori. Je le rappelle simplement parce que je pense que il faut peut-être se garder d'une tendance philosophique qui serait une tendance qui consisterait à tout de suite aller à l'a priori et au fond à extraire la réflexion sur l'a priori de cette polarité qui est la polarité structurante qui a pu donner un sens à ce concept d'a priori. Donc je pense qu'il faut toujours garder en vue le fait que en un certain sens alors l'a priori est censé venir avant hein, étymologiquement, donc il est censé précéder la posteriori, mais en un autre sens, l'a priori, en un sens très essentiel, dépend de la posteriori. Ce qui fait la légitimité du concept d'a priori, c'est sa capacité à donner un sens au fait qu'il y a un a posteriori et à, au fond, donner sens à cette notion-là, au fond. Donc ça, c'est un fait conducteur, je pense qu'il ne faudra pas oublier, auquel il faudra revenir forcément dans les éléments donc on va essayer de rassembler. Alors, ce dont je voudrais partir, bon, c'est un fait bien évident, c'est l'espèce d'inversion historique par laquelle la notion moderne d'a priori a pu s'instituer. Le terme a priori, évidemment, n'est pas propre à la modernité, enfin, en tout cas, à la modernité au sens de modernité philosophique kantienne et post-kantienne, on le trouve avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le trouve avant d'une façon qui, à la fois, n'est pas sans rapport avec l'usage qui s'est institué à partir de Kant. Bien sûr, les choses ne viennent pas de nulle part, mais en même temps, qui n'est pas le même. Et il y a une forme de renversement. Bon, c'est une des figures, parmi d'autres, de ce qu'on appelle le renversement copernicien, pour reprendre l'image kantienne. Alors, en ce qui concerne la notion d'a priori, il faut quand même rappeler qu'elle existe dès le Moyen-Âge tardif, employé, par exemple chez Occam, on le trouve à plusieurs reprises, c'est un terme qui est même utilisé pas seulement, mais primairement pour qualifier un raisonnement, pour qualifier un régime de preuve. Il y a une façon de prouver a priori opposée à une façon de prouver a posteriori. On va tout de suite préciser. En ce sens-là, c'est bien donc originairement un concept épistémique, si on est sur le terrain de la théorie de la preuve dans le registre épistémique, mais c'est un concept épistémique dans laquelle n'est pas impliquée, en tout cas pas immédiatement, la modalité suivant laquelle le sujet est impliqué dans la preuve. C'est pas un concept qui porte d'abord sur la subjectivité épistémique, c'est un concept plutôt qui porte sur un régime, au fond sur une procédure, et une procédure en tant que procédure de validation. Donc, si elle n'implique pas immédiatement le sujet épistémique, en tout cas si c'est pas ça qui est mis en avant, qu'est-ce qu'elle implique ? Elle implique plutôt les contenus objectifs mobilisés dans la preuve. C'est ça qui fonde la distinction première de l'a priori et de l'a posteriori, deux régimes de preuve qui vont se distinguer à partir de la nature des contenus impliqués dans la dite preuve et du type de rapport construit entre ces contenus. Il y a un texte qu'on cite très souvent comme exemple hein, de cette distinction de l'a priori et de l'a posteriori tel qu'on la trouve chez les scolastiques. Donc pour désigner démonstration a priori par opposition à démonstration a posteriori, c'est le texte de saint Thomas, Somme théologique, première partie, question 2, article 2, réponse à l'objection 3. Alors évidemment c'est intéressant parce que si vous prenez la traduction anglaise reçue de la Somme théologique, vous avez a priori a posteriori dans la traduction de cette réponse à l'objection 3 de l'article 2, question 2 de la première partie de la Somme théologique. Si vous regardez le texte latin, vous n'avez pas a priori a posteriori. Ça ne veut pas dire que ces termes-là n'existent pas en latin scolastique. Ils existent un peu plus tard, ils existent par exemple chez Occam. Chez Occam, on trouve a priori, mais on ne trouve pas a priori a posteriori dans ce fameux texte de saint Thomas, qui pourtant est le texte qui est tout le temps cité comme exemple de l'opposition de preuve a priori a posteriori. Alors, regardons ce texte de Thomas. Bon, c'est très connu, puisqu'il s'agit en réalité de deux stratégies possibles de preuve d'existence de Dieu. Soit il y a la preuve par les effets, on remonte des effets, à savoir les choses créées vers la cause, soit au contraire on a une stratégie de preuve qui part de l'essence et qui déduit de l'essence l'existence. Et c'est ça qui serait l'opposition première entre a priori et a posteriori. Bon, je ne veux pas perdre trop de temps, mais on peut lire le texte parce qu'il est, je pense, très important en termes de fondation historique de cette distinction, et puis aussi pour voir quel terme emploie réellement Thomas. Il y a deux sortes de démonstrations. l'une par la cause que l'on nomme propter quid. À cause de quoi ? Alors c'est ça que, par exemple, l'édition anglaise reçue traduit par a priori. Elle part de ce qui est antérieur en réalité par rapport à ce qui est démontré. L'autre par les effets que l'on nomme démonstration quia, donc puisque, ce que l'édition anglaise traduit par a posteriori. Elle part de ce qui n'est premier que dans l'ordre de notre connaissance. C'est pourquoi, toutes les fois qu'un effet nous est plus manifeste que sa cause, nous recourons à lui pour connaître la cause. Or, de tout effet, on peut démontrer que sa cause propre existe, si du moins les effets de cette cause sont plus connus pour nous qu'elle-même. Car les effets dépendant de la cause, dès que l'existence de l'effet est établie, il suit nécessairement que la cause préexiste. Donc, si l'existence de Dieu n'est pas évidente à notre égard, elle peut être démontrée par ses effets connus de nous. Texte très connu, distingue de les deux voies, les deux grandes voies de preuve possible d'existence de Dieu. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que le principe de la division, si on la réinterprète en termes de division de l'a priori et de l'a posteriori, ce qui est fait très vite par la scolastique quasiment contemporaine, enfin, la génération d'après Thomas, si on la réinterprète ainsi, on est frappé par une chose, c'est que le principe de la division est en un sens ontologique, mais en fait pas purement ontologique. En réalité, la division telle qu'elle est amenée ici entrelace un critère ontologique, à savoir ce qui est cause et ce qui est effet, et un critère épistémique, ce qui nous est mieux connu. Donc on a à la fois de l'ontologique et de l'épistémique, comme dans le principe de distinction de ces deux chemins de preuve. En fait, le problème est de fait celui de deux sens possibles de la priorité, cette priorité qu'on entend précisément dans le terme a priori. Suivant la distinction aristotélicienne classique, que reprend ici Thomas, il y a ce qui est premier en soi, Dieu, et ce qui est premier pour nous, les choses sensibles. Le cheminement de preuve a priori part de ce qui est premier en soi, et donc par exemple de l'essence de Dieu, à supposer bien sûr que nous puissions y avoir accès. Le cheminement de preuve a posteriori part de ce qui est premier pour nous, donc dans une ontologie médiévale des choses créées, depuis lesquelles on pourra remonter vers Dieu en tant qu'elles en sont les effets. Donc on pourrait dire qu'ici, l'a priori au sens épistémique du terme est en un sens adossé à la priorité ontologique. Il repose sur l'existence d'un intrinsèquement premier, auquel il suppose par ailleurs un accès possible de la part du sujet de savoir. Mais d'autre part, le partage entre l'a priori et l'a posteriori, définitionnel de la notion d'a priori, est inséparable d'une certaine représentation du rapport entre l'ordre du savoir et celui de l'être. Il y a lieu de distinguer les deux dimensions dans la mesure et la seule mesure où il y a un sens à opposer ce qui est premier en soi et ce qui est premier pour nous. En d'autres termes, pour que la notion d'a priori ait un sens, il faut que le « pour nous » ait un sens, même si précisément l'a priori serait censé caractériser la possible coïncidence de l'ordre en soi et de l'ordre pour nous, si tant est qu'une telle coïncidence soit jamais effectuable. Cette remontée historique préalable appelle deux remarques. La première a trait à l'inversion apparente de l'ordre entre les anciens et les modernes. Chez les anciens, la distinction entre a priori et a posteriori contresigne la façon dont l'ordre de la connaissance se règle ou non sur celui de l'être. Alors de ce point de vue-là, évidemment, il y a un renversement apparent, le fameux retournement kantien, la révolution copernicienne, dans la mesure où ça serait cette fois le réglage de l'être sur la connaissance qui définirait l'a priori. Et évidemment, cette question va être centrale dans la discussion que je vais ouvrir. Est-ce que on a affaire à un tel renversement si net? Est-ce qu'on peut penser l'écart entre l'a priori des classiques et l'a priori des modernes en termes simplement d'une inversion de priorité entre être et connaissance? En même temps, il faut remarquer que la possibilité même du concept d'a priori et de la distinction de l'a priori et de l'a posteriori qui en est constitutive semble dépendre et indubitablement provient historiquement de cette distinction même entre épistémologie et ontologie et de cet écart qu'avait creusé la tradition. D'une certaine façon, y compris chez Kant, on n'en a jamais affaire qu'à une réinterprétation et pour ainsi dire une relecture de l'autre côté. Mais c'est bien de cette question, qui était la question structurante de la distinction qu'on trouvait chez Scolastique, que part aussi la construction kantienne des notions d'a priori et d'a posteriori. Autre façon de dire qu'il n'est pas complètement évident que le concept d'a priori puisse jamais être purement épistémique, c'est-à-dire en tout cas épistémique en un sens qui serait complètement désengagé ontologiquement. Alors la question sous-jacente Je ne vais pas m'y attarder trop parce que ça ouvrirait un autre chapitre. Et notamment, ça pour le coup, ça rencontrerait certaines questions que j'ai pu me poser les 10 dernières années autour de la notion de phénoménalité. La question sous-jacente, au fond, c'est la question de la provenance métaphysique et métaphysique réaliste, au sens classique du terme, de l'idéalisme transcendantal. La question, c'est celle du statut de la thèse de phénoménalité qu'on trouve au cœur de l'esthétique transcendantale kantienne. Dans quelle mesure cette thèse dépend-elle ou non de ce qu'on pourrait appeler le montage traditionnel de la notion de phénomène? Par montage traditionnel de la notion de phénomène, j'entends cette distinction de l'en-soi et du pour-nous. Hein, premier en-soi, premier pour-nous, tel que l'avait au fond mis en place l'aristotélisme. Alors, je voudrais remarquer une chose au passage, il y a un commentateur de Kant qui a vraiment très bien vu ça, et dont la lecture, paradoxalement, a eu assez peu d'écho, c'était François-Xavier Chenet, dans sa thèse sur l'esthétique transcendantale, qui avait été éditée en 1994 sous le titre « L'assise de l'ontologie critique ». Alors, Chenet avait une lecture de Kant extrêmement originale par rapport au contexte, pourrait-on dire, globalement néo-kantien des lectures françaises et allemandes contemporaines, puisque lui allait chercher, plus spécialement dans l'esthétique transcendantale, toute la terminologie, les distinctions et les usages qui clairement avaient un parfum scolastique et qui clairement nous référaient à un dispositif un peu du type de celui qu'on rencontre et qu'on vient d'effleurer dans le texte de Thomas, l'opposition du premier en soi, premier pour nous. Et il essayait de montrer que la thèse même de l'idéalisme transcendantal, s'écrivant dans le langage de la phénoménalité, ne se comprenait que si on avait moyen de constituer une notion de phénomène, et que pour constituer une notion de phénomène, à l'arrière-plan, chez Kant, il y avait l'usage, alors évidemment après inversé, hein, transformé, de ce dispositif qui était dispositif ontologique traditionnel, dispositif plongeant ses racines dans la scolastique. Je ne vais pas m'attarder à cette question, mais évidemment, c'est important si on veut poser la question de la continuité ou pas, enfin de la transmission de la distinction originaire a priori et a posteriori telle que elle est ressaisie par le kantisme. D'où ça vient et quelle est la stratégie au fond de retournement? Comment est-elle précisément mise en œuvre? Ce que je voudrais retenir simplement, c'est qu'en tout cas, après ce premier coup de sonde, je pense qu'il faut tout de même avoir conscience de ce fait qu'on ne peut pas opposer si simplement l'a priori ontologique ou supposé ontologique des anciens et l'a priori épistémique ou supposé épistémique des modernes. En tout cas, on ne peut pas postuler une pureté des notions d'ontologie et d'épistémologie qui se distribuerait finalement comme quoi, ben voilà, le point de vue des anciens, c'est le point de vue ontologique, le point de vue kantien et post-kantien, c'est le point de vue épistémique. Historiquement, la notion se forme et existe au point de rencontre des deux problématiques, de la problématique épistémique et de la problématique ontologique. Il ne faut pas oublier que même dans une perspective qui semble ordonner l'épistémique au primat de l'ontologie, comme celle des anciens, la question de l'a priori demeure bien tout de même essentiellement épistémique. Et d'autre part, que dans un point de vue qui, comme celui des modernes, va privilégier et en un sens apparemment autonomiser la question épistémique, la question de l'a priori va de fait être constamment marquée par le retour du problème de la portée ontologique ou non de la connaissance, et inversement, du poids de l'ontologie dans la détermination de la formalité de la connaissance elle-même, de la part d'ontologie que celle-ci doit incorporer. Je pense d'ailleurs que ça serait une clé de lecture de toute cette histoire, hein, de la notion d'a priori après Kant, que Dufresne déploie très très bien, avec toutes ces espèces de retours d'ontologie qu'on a du mal à comprendre. Sans arrêt, ça serait ontologisme. Mais c'est que je pense que le problème, en fait, est au départ. L'abandon apparent de l'indexation de l'a priori sur une priorité ontologique prédéfinie se paiera du retour constant de la question de savoir dans quelle mesure la connaissance ou toute autre structure d'accès ne doit pas reconnaître le caractère structurant pour elle du contenu même qu'elle a à appréhender, ou en tout cas de certains contenus, comme une sorte de constant retour du refoulé ontologique qui caractérise les 2 derniers siècles de philosophie. En fait, me semble-t-il, la question de l'a priori et corrélativement de l'a posteriori est en fait celle-là même de ce recroisement. C'est la question du recroisement de l'épistémique et de l'ontologique. Alors revenons maintenant à l'invention du sens dit moderne de l'a priori sur fond de la réinterprétation de l'opposition traditionnelle de l'en-soi et du pour-nous. Le texte, évidemment, est extrêmement connu. Préface de la 2e édition de la Critique. Dans cette préface, donc, Kant parle de la révolution qu'aurait traversé les sciences, entendez par là la science de la nature, avec son entrée dans l'époque moderne, la dite révolution copernicienne. Révolution copernicienne qu'il présente comme une réponse à un échec précédent. Or, cet échec, tel qu'il le présente, était précisément celui de la connaissance a priori. Donc je reprends ce texte à préface de la deuxième édition de la Critique. Jusque-là, on supposait que toute notre connaissance devait s'orienter sur les objets, se conformer aux objets. Mais toutes les tentatives d'établir à travers ces connaissances quelque chose a priori, par concept, par quoi notre connaissance aurait été étendue, sur la base de cette présupposition, toutes ces tentatives allaient à l'échec, allaient à leur perte. Donc, l'impossibilité qui est pointée ici, c'est l'impossibilité d'obtenir une connaissance a priori par la stratégie dite ancienne, la stratégie qui consistait à essayer de conformer les connaissances à l'objet, l'objet étant présupposé comme étant en amont de la connaissance, indépendant de la connaissance. L'impossibilité, c'est celle de combiner l'exigence suivant laquelle la connaissance devrait se régler sur les objets et celle de la possibilité d'une connaissance a priori. L'opération effectuée par la Critique se présente dès lors comme un sauvetage de la connaissance a priori. Pour garantir la possibilité de celle-ci, nulle autre solution que celle de supprimer la première injonction. La connaissance n'a pas essentiellement à se régler sur les objets, en tout cas pas dans le sens qui jusque-là avait été présupposé. C'est donc une forme de retournement qui est alors proposée. Donc je reprends le texte de la préface de la deuxième édition de la Critique, qu'on essaie en conséquence une bonne fois de voir si nous ne parviendrons pas à des résultats meilleurs en métaphysique si nous supposons que les objets doivent se conformer à notre connaissance. Ce qui correspond, ce qui entre en harmonie de façon beaucoup plus satisfaisante avec la possibilité désirée, la possibilité requise d'une connaissance de ces objets qui serait a priori une connaissance qui devrait établir quelque chose sur ces objets avant que ceci ne nous soit donné. Alors, c'est un texte évidemment extrêmement connu, quasiment. Le texte est plus connu du corpus scolaire de la philosophie, surtout vu le rôle, l'importance que Kant a toujours eu dans la formation philosophique française depuis la Troisième République. Le résultat, c'est qu'il me semble qu'on ne s'étonne plus toujours assez de ce texte, qui en lui-même dit quelque chose d'énorme, si on le prend littéralement. Si nous accordons que ce sont les objets qui doivent se conformer à la connaissance, et non pas la connaissance aux objets, écrit Kant sans rire, cette hypothèse s'accorde beaucoup mieux avec la possibilité désirée d'une connaissance a priori. À relire la phrase, on pourrait avoir l'impression qu'au fond, ici, la notion de connaissance se voit purement et simplement redéfinie de façon à ce que, par définition, analytiquement, la connaissance a priori soit possible. Et en effet, à première vue, ce serait une lecture possible de Kant. La sensibilité moderne, donc se croyant souvent post-métaphysique, ou en tout cas se définissant volontiers comme telle, tend ou tendait à l'oublier, mais le but de Kant est bel et bien de refonder, et non pas de supprimer, la métaphysique. Si celle-ci se définit essentiellement par la connaissance a priori, alors il est essentiel que cette dernière soit possible, et pourrait-on dire à n'importe quel coût. Donc si la clause comme quoi la connaissance doit se conformer aux objets nous embête, on la supprime. D'autre part et surtout, il faut relever l'intervention ici, en commentaire de la notion d'a priori, de la notion de priorité. Mais de priorité, cette fois, dans l'ordre des actes ou des expériences de l'esprit. La connaissance a priori à propos d'objets se caractérise par le fait que le sujet puisse l'obtenir, dit Kant, avant que ces objets ne lui soient donnés. L'a priori, c'est ce qui vient avant le donné. Cette priorité, dira-t-on, bien sûr, n'est pas temporelle. On hésitera pourtant à la qualifier de logique. En toute rigueur, elle est transcendantale. Ce qui est important, c'est qu'elle ne renvoie pas à une simple indifférence. Ce qui est connu a priori l'est apparemment indépendamment du donné. Cependant, il ne vient pas seulement indépendamment de ce donné, mais il vient avant lui. C'est précisément ce qu'il qualifie comme a priori, c'est être avant. Puisque les objets ont à se régler sur la connaissance, et la possibilité de la connaissance a priori est fondée sur ce fait, qui est fondamentalement une exigence, l'existence de la connaissance a priori témoigne du fait que la connaissance donne quelque chose, pour ainsi dire, en amont de l'expérience, c'est-à-dire avant que quelque chose ne lui soit donné. La priorité de l'a priori est priorité à l'expérience. Le point est capital, car il signifie que la notion moderne d'a priori est indissociable et solidaire de la notion d'expérience. il n'y a d'a priori que d'un a posteriori, et ceci non seulement au sens de par contraste par rapport à lui, mais en celui beaucoup plus fort de avant lui. Mais avant, c'est aussi ce qui prépare, c'est aussi ce qui ouvre. Ah. Cela signifie que toute la problématique moderne de l'a priori, d'une certaine façon, dépend du concept moderne de l'expérience. Et qu'est-ce que c'est que le concept moderne de l'expérience ? C'est le concept de l'expérience comme ce qui est reçu, ce que Kant appelle précisément le donné. Sans ce concept, la notion d'a priori perd en lisibilité. Autre façon de dire que le concept d'a priori propre à la modernité est l'envers de l'empirisme moderne, ou l'envers de l'empirisme en tant que phénomène proprement moderne, au sens de ce qui vient le corriger, bien sûr, mais aussi de ce qui le suppose et d'une certaine façon tient la nature fondamentale de son dispositif, un sujet réceptif de l'expérience, pour acquise. Cette solidarité de l'a priori, et si ce n'est de l'empirisme, en tout cas du dispositif de l'empirisme, explique l'oscillation qui caractérise l'histoire de cette notion tout au long des deux derniers siècles de philosophie. D'un côté, l'empirisme, suivant son programme, tout doit pouvoir être reconduit à l'expérience, veut éliminer l'a priori, et essaie d'aller le plus loin possible dans la voie de cette élimination. Il faut cependant se rendre compte que l'a priori des modernes n'est rien d'autre que ce à quoi est adossé ce programme d'élimination lui-même, à savoir l'idée du primat de la connaissance. En ce sens, l'empirisme présuppose l'a priori. Mais c'est alors l'a priori qui est voué à se nier lui-même, qui est au fondement du programme de naturalisation même qui conduit à le nier. C'est pourquoi, à la fois, tout a priori, compte tenu du cadre théorique dans lequel la notion a un sens, est toujours de nouveau appelé à être remis en question, et en même temps, la question de l'a priori est toujours amenée à ressurgir au bout même du naturalisme qui entend le nier. Le problème de l'a priorité, c'est celui de la capacité du naturalisme à boucler sur lui-même. Ce qu'à la fois il ne peut pas faire, et en même temps, ce qu'il est voué à constamment réessayer de faire. Il s'agit donc, en ce sens-là, d'un problème qu'on pourrait appeler un problème inéliminable de la modernité. Alors, de la modernité, évidemment, épistémique, mais en un certain sens, c'est redondant, car en un certain sens, la modernité philosophique se définit précisément par le primat de l'épistémique. Alors, je ne vais pas développer là-dessus, parce que ça conduirait vers une voie collatérale, mais je voudrais remarquer une chose, c'est que de ce point de vue-là, c'est très frappant, ça fait maintenant, en gros, une vingtaine d'années, que la question de l'a priori est pas mal revenue en contexte anglophone. Elle a existé à différentes étapes de la philosophie anglophone du XXe siècle, mais là, elle est pas mal revenue en faveur, il y a une littérature là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que cette littérature, bien sûr, bon, d'abord, est fondamentalement épistémique et ou sémantique, mais que d'autre part, elle tourne, elle est sur la balançoire dans l'espèce d'oscillation que je viens de décrire, au sens où constamment, c'est on essaie d'éliminer le plus possible, mais dans le mouvement même d'élimination de l'a priori, la question de l'a priori ressurgit, et donc on est conduit à réintroduire de l'a priori, et en même temps, l'a priori qu'on réintroduit devient le soutènement, le soubassement d'un programme de naturalisation qui évidemment se retourne contre lui, donc on oscille constamment, il y a cette espèce de débat finalement assez étrange qui est l'a priori toujours comme résidu d'une opération qui consisterait à l'éliminer, et en même temps un résidu qui produit un effet de rebond qui fait qu'il relance le programme même de son élimination. D'où une espèce de circularité dont on a l'impression de ne pas sortir. Alors, en fait, c'est quelque chose qui s'est mis en place assez tôt dans le post-kantisme. C'est des choses qui n'ont pas été assez étudiées par l'histoire traditionnelle de la philosophie allemande, qui a été dominée par l'intérêt évidemment pour l'idéalisme allemand. C'est des choses qui sont un petit peu revenues sur le devant de la scène les dernières années grâce à certains travaux, notamment intéressant de ce point de vue-là, le travail de Fries dans la postérité de Kant, un travail sur lequel Christian Bonnet avait fait sa thèse, il a publié un livre. On voit que dès la première réception de Kant, au fond, certains auteurs trouvent chez Kant les ressources de fondation d'un programme naturaliste qu'évidemment, ils vont rien avoir de plus pressé que d'appliquer à la critique elle-même, au kantisme lui-même, avec la question, au fond, la connaissance du transcendantal, de quelle nature est-elle? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de connaître le transcendantal avec le moyen du naturalisme? Mais en fait, ce bouclage qui peut nous paraître vicié, d'une certaine façon, est le fruit même d'un programme de fondation qui évidemment ouvre l'espace d'une connaissance qui est censée connaître jusqu'au bout, connaître tout ce qu'il y a à connaître. Donc cette oscillation, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans la postérité de ce que j'appellerais les kantismes épistémiques. Alors c'est intéressant de la voir à l'œuvre complètement dans le contexte actuel du côté de la philosophie anglophone. Alors derrière tout ça, philosophiquement, il y a quelque chose de fondamental qui structure au fond cette question depuis Kant. C'est le présupposé de la connaissance, le fait que il soit légitime de partir du point de vue de la connaissance et qu'il y ait une consistance propre de ce point de vue, que ça soit une base solide pour poser la question, que ça soit du sujet, de ses capacités, du statut des choses, que ça soit la bonne clé pour aborder les questions ayant trait soit au versant subjectif, soit au versant ontologique. Alors la question qui se pose, c'est bien sûr celle d'abord de la légitimité de ce présupposé. Est-ce qu'on peut, comme ça, absolutiser le point de vue de la connaissance, partir du point de vue de la connaissance comme si ce point de vue était premier ou comme s'il pouvait être défini en toute autonomie, indépendamment de toute autre chose? Et puis il y a une deuxième question qui est ce présupposé de la connaissance, dans quelle mesure implique-t-il ce qu'on appellera le présupposé du sujet? Dans quelle mesure la question de la connaissance, c'est la question du sujet? Bon, ce qui est une question double, hein, au sens où d'un côté, il y a la question de savoir s'il est nécessaire, inéluctable, de lire le problème de la connaissance en termes de connaissance d'un sujet, par un sujet, et puis donc de resubjectiver la question de la connaissance. Et puis évidemment, il y a la question inverse, qui est-il inévitable, inéluctable, de poser la question du sujet dans le seul horizon de la connaissance? Est-ce que le sujet se définit fondamentalement comme instance épistémique? Alors, du point de vue historique, il y a évidemment de bonnes raisons de penser que c'est tout de même par l'épistémique que ça passe, que, en tout cas, la subjectivité kantienne est instituée sur ce terrain-là. Pour autant, ça n'est pas parce que c'est institué sur ce terrain-là que le concept institué par là n'a pas d'autre emploi et ne va pas aussi rencontrer une question qui est celle, au fond, d'une existence plurielle, qui est celle d'une existence qui ne serait pas dans le seul registre épistémique. Donc, il y a des questions des deux côtés, hein, en termes de reconduction du sujet à la connaissance et de reconduction de la connaissance au sujet, ça soulève de part et d'autre toutes sortes de questions présuppositionnelles. Si on considère que le concept moderne d'expérience appelle comme son complément inévitable, son fondement, un a priori, d'une nature ou d'une autre, ce retournement du motif initial, à savoir du motif de la relativité de l'a priori au prima et à l'existence de quelque chose qu'on appelle l'expérience, renvoie apparemment, en tout cas c'est ce qui se passe chez Kant, à l'identification de l'a priori et de ce qu'on pourrait appeler la priorité du sujet, qui serait nécessairement présupposée par l'expérience, en tant que celle-ci serait intrinsèquement expérience d'un sujet en un sens qui la précéderait. Alors, dans ce sens-là, on trouve chez Kant, évidemment, certaines affirmations qui sonnent de cette façon. Toujours dans la préface de la seconde édition de la critique, il y a cette affirmation tout à fait décisive par rapport à la question de l'a priori. C'est en B18, dans la préface de la seconde édition, lorsque Kant nous dit « Nous connaissons des choses, a priori, cela seul, que nous y plaçons nous-mêmes. » Nodas a priori, va se dire « Selbst in sie liegen », cela même que nous y plaçons nous-mêmes. La mesure de l'a priori, en tant que connaissance a priori, est donc exactement donnée par le sujet, ce que nous y mettons, par la capacité du sujet de placer quelque chose dans les choses elles-mêmes. La priorité de l'a priori est alors celle du sujet, en tant que celui-ci serait censé avoir un certain pouvoir d'initiative, la capacité de mettre quelque chose dans les choses, de placer quelque chose dans les choses. Alors, comme on le sait, dès la critique de la raison pure, cette initiative n'est pas représentée nécessairement comme activité au sens strict du terme. Elle revêt aussi, et en un certain sens d'abord, l'aspect d'une fondamentale passivité, qui est celle de la réceptivité. Par les structures de notre réceptivité, nous plaçons aussi des choses dans les choses. La priorité est d'abord celle, en premier lieu, des structures a priori de l'intuition. Il reste que même recevoir, c'est encore imposer une forme essentiellement subjective, subjective au sens où elle est représentable comme subjective par contraste avec l'éventuelle autre constitution de la sensibilité d'autres types d'êtres pensants finis, suivant la remarque importante de la fin de l'esthétique transcendantale dans la deuxième édition. Ces êtres, en tant que finis, c'est-à-dire précisément en tant que réceptifs, doivent être sensibles, mais on ne peut exclure a priori, justement, que les formes de leur sensibilité soient différentes, que de telles formes différentes puissent exister. Il faut le rappeler, c'est un point important, il a souvent aussi un petit peu négligé, l'esthétique transcendantale fait objet d'exposition, et plus particulièrement en un premier temps, d'exposition métaphysique et non pas de déduction. Si exposition, c'est que c'est comme ça. Et si c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a forcément une dimension de contingence qui subsiste, au sens où il est possible qu'il n'y ait pas d'être sensible, qu'il y ait d'autres structures de réceptivité que l'autre. C'est possible, mais il n'y a pas moyen d'en être sûr. On ne peut pas l'exclure. C'est pas impossible métaphysiquement qu'il y ait des êtres, qu'il y ait d'autres formes de la sensibilité que nous. En tant qu'être fini, ils doivent avoir des formes de sensibilité, mais pas forcément les nôtres. Même si rien ne prouve que ça soit le cas, il est possible que tout être fini ait les mêmes structures que nous, mais on ne peut pas avoir de garantie à ce niveau-là. À partir du moment où il y a là un terrain contingent, donc qui fait l'objet d'exposition, il y a une dimension de facticité, c'est comme ça, nos structures de sensibilité sont comme elles sont, par là même, le sujet kantien, y compris dans la première critique, se met à avoir une forme d'épaisseur propre. Et cette épaisseur donne précisément sa consistance épistémique et phénoménologique, en tout cas phénoménologisante, au sens de productrice de phénomènes, au concept d'a priori. Dans la mesure où ce sujet a son épaisseur propre, ce qui y apparaît suivant ce qu'il est, alors qu'il pourrait être autrement. Donc, la notion d'a priori se met à avoir une épaisseur, ne peut plus être la simple évanescence d'une formalité indépendante de toute constitution particulière du donné. À cet égard, il faut prendre une première fois la mesure de cette complexité de la relation entre les concepts de nature et d'a priori, qui de fait a nourri à un double niveau les réflexions de Dufresne. Pour rester pour l'instant sur le versant subjectif, il semblerait à première vue que l'idée d'un sujet instaurateur d'a priori soit incompatible avec celle d'un sujet ayant une nature. Cette naturalité du sujet en fait logiquement un objet d'étude a posteriori et rend problématique l'idée que ce qui résulterait de sa structure ou de son activité puisse avoir valeur a priori. Pourtant, d'un autre côté, pour que l'a priori du sujet, génitif subjectif, acquiert une consistance comme telle et soit assignable comme un a priori, pour en d'autres termes que le sujet donne quelque chose avant, c'est-à-dire avant tout donner, il faut précisément qu'il donne quelque chose, et en un sens quelque chose de déterminé, donc qu'il ait bien, en un sens, une certaine nature. Celle-ci fut-elle soustraite, d'une certaine façon, à la prise de l'analyse a posteriori. D'où l'impossibilité de formaliser complètement le versant subjectif de l'a priori, qui conduit Dufresne, dans le premier versant de son analyse, à restituer sa part de nature au sujet critique, quitte à verser cum grano salis dans une forme paradoxale de réhabilitation de l'inéisme. Certes, la notion d'a priori s'est établie précisément chez Kant, moyennant la déconstruction de toute métaphysique de l'inéité, au profit d'un élargissement de la notion d'acquisition vers celle d'acquisition originaire, par opposition à l'acquisition dérivée. Mais comment concevoir l'a priori sans cette avance qui est celle d'une naissance, cette naissance qu'on entend précisément dans le mot « nature » ? L'avance du sujet suppose en un sens qu'il soit toujours déjà quelque chose. Peut-être est-ce cet embryon de nature, précisément, que l'on rencontre dans les structures de l'esthétique transcendantale, qui certes essentiellement précèdent le donné et le rendent possible comme tel, elles n'ont d'autres fonctions, mais sont aussi, en un certain sens, elles-mêmes données. Mais alors, pourrait-on dire, données par le sujet, ou plutôt avec lui ? Cette épaisseur propre du sujet est précisément nécessaire pour donner corps à son avance. Cette avance qui, comme telle, est constitutive de l'a priori et qu'on entend dans son nom. L'a priori tel que l'introduit Kant est essentiellement lié au préalable de la subjectivité. Il renvoie à ce que le sujet anticipe toujours déjà de la connaissance, ce que le sujet donne à la connaissance, en quelque sorte, avant ce qu'il y a à connaître, ou plutôt avant ce qui est connu. En même temps, l'équation impossible est que la notion d'a priori n'a de sens qu'en tant que, d'une certaine façon, elle mord précisément sur ce qu'il y a à connaître. Quand lui, ce qui est anticipé, en vertu même de la constitution du sujet, c'est déjà quelque chose de ce qu'il y a à connaître. Et ceci pourtant avant que le connu soit effectivement donné à connaître. D'où le doute récurrent quant à l'existence d'un tel a priori, doute qui traverse la philosophie depuis 2 siècles, ou alternativement le soupçon de ce que s'il existe, il ne peut être que vide ou formel. Le sujet n'y rencontrerait que lui-même, y faisant purement l'épreuve de sa constitution subjective, et donc rien du connu n'y serait déjà à connaître. La connaissance a priori serait une connaissance sans contenu, ou plutôt sans contenu autre que le sujet lui-même. La connaissance étant pourtant, dans ce dispositif philosophique qui institue le sujet, précisément en tant que sujet de connaissance, ce qui serait censé conférer à ce sujet la puissance de l'accès à un ailleurs, au connu comme tel, qui n'est pas lui, fût-ce lorsque c'est pourtant lui-même. C'est le paradoxe posé dès la fin de l'esthétique transcendantale. Le sujet connu, en un certain sens, est un objet comme les autres, ou en tout cas un objet, ce qui signifie qu'il est autre au sujet. La connaissance, c'est la question de cet accès à l'autre. L'autre, évidemment, pas au sens d'un autrui, mais ce petit autre qu'est l'objet. Dès lors, n'y a-t-il pas une contradiction à vouloir une connaissance a priori, ou celle-ci n'est-elle pas vouée à s'épuiser dans la simple ombre d'une connaissance, un simple projet d'une connaissance, mais le projet d'une connaissance et une connaissance, c'est pas la même chose. Ce risque d'un a priori vide traverse toute l'histoire des deux derniers siècles de débats en matière de théorie de la connaissance, tout à la fois obsédé par cette notion et ressassant le risque de son impossibilité. Si la part d'a priori dans la connaissance des choses correspond, suivant la formule kantienne, à ce que nous y plaçons nous-mêmes, et donc si la subjectivité n'y rencontre rien d'autre qu'elle-même, l'a priori ne risque-t-il pas de se résorber en une forme de transparence tautologique qui le reconduirait, en quelque sorte, en deçà de la connaissance? Évidemment, tout dépend ici de l'interprétation qu'il faut donner à cette formule énigmatique et au premier abord paradoxale suivant laquelle nous plaçons quelque chose dans les choses. Si nous le plaçons nous-mêmes dans les choses, dire que nous pouvons le connaître a priori paraît encore une fois en un sens bien facile. Et il semble qu'il faille l'entendre comme une clause restrictive. Il n'y a que cela que nous puissions connaître a priori, et une clause restrictive plutôt décevante. En première apparence, autant dire qu'il n'y a pas de connaissance a priori, ou que celle-ci n'apporte rien, puisqu'elle ne nous conduit pas vraiment au-delà de nous-mêmes, alors que la connaissance serait censée être ce qui nous met en rapport, justement, à quelque chose d'autre. Fût-ce à nous-mêmes comme autre, mais comme autre. Pourtant, à y réfléchir, la formule ne vaut qu'à la prendre assez littéralement, ce qui lui restitue toute sa dimension paradoxale. L'idée que nous puissions placer quelque chose dans les choses n'a précisément d'intérêt que si l'on fait droit à l'extériorité de ces choses. L'idée est certes que la priorité vient de nous, mais en tant que précisément nous sommes capables de réellement donner quelque chose aux choses, de projeter quelque chose qui devient pour elles une part même de leur constitution et donc de ce que, en elles, il y a à connaître. D'où le fait que la question de l'a priori, dès le départ, dans son instauration moderne, kantienne, s'identifie largement à celle du synthétique a priori. Le synthétique a priori est ce par quoi l'a priori devient a priori des choses, ce qu'il a vocation à devenir en tant qu'a priori de la connaissance, donc toujours essentiellement a priori de ce qu'il y a à connaître. L'a priori, comme avant, est avant d'une rencontre. Il ne gagne donc ses pleines valeurs et significations que si le sujet rencontre quelque chose. En ce sens-là, si le site originaire de l'a priori moderne, tel que Kant nous l'a légué, est bien le sujet, appréhendé d'abord comme figure épistémique, la question primairement posée par cette notion est celle de la capacité de ce sujet à se projeter dans l'anticipation de ce qui serait censé avoir sa consistance propre indépendamment de lui, et plus précisément dans l'anticipation de cette consistance même. Ainsi, le retour du refoulé ontologique, dont on pourrait dire qu'il caractérise massivement, bien sûr avec force oscillation et retour en arrière, l'histoire du tout dernier siècle de débat autour de la notion d'a priori, n'a rien d'incident et de complètement inattendu. D'une certaine façon, la question de l'engagement ontologique travaille dès le départ l'a priori kantien. L'a priori ne gagne sa pleine signification qu'à être l'a priori des choses, même si, par là même, pour Kant, il ne peut être que celui de ce que nous plaçons dans les dites choses. L'a priori, en ce sens, a forcément une vocation ontologique. Alors évidemment, si on dit ça, on sera tout de suite conduit à objecter un texte. On rappellera, bien sûr, ce fameux passage de la critique. C'est au chapitre 3 de l'analytique transcendantale, vers la fin de l'analytique transcendantale, dans le chapitre sur la distinction de tous les objets en général en phénomène et noumène, donc le chapitre qui au fond revient sur la question de la phénoménalité et de la définition, cette fois non plus métaphysique mais transcendantale de la phénoménalité, il y a ce très fameux passage où on nous dit que le nom orgueilleux d'une ontologie, qui prétend donner des choses en général, des connaissances synthétiques a priori, remarquez ce lien entre ontologie et puis projet de connaissance synthétique a priori, dans une doctrine systématique, doit faire place au nom modeste d'une simple analytique de l'entendement pur. Alors par rapport à ce texte très connu, là encore, on remarquera deux choses. La première chose, c'est que ici l'idée d'ontologie donc est explicitement liée à celle de synthétique a priori. La deuxième, c'est qu'il s'agit précisément dans ces lignes de circonscrire la portée d'une analytique transcendantale prise pour elle-même, c'est-à-dire détachée de toute esthétique. La connaissance produite par une telle analytique est précisément destinée à rester purement analytique. En revanche, une fois le couplage assuré entre esthétique et analytique, donc là où les concepts sont pensés dans leur rapport déterminant aux données, se déploie positivement le champ d'une connaissance synthétique a priori. Celle-ci, d'une certaine façon, même si elle en rabat sur la prétention d'une ontologie purement conceptuelle, c'est-à-dire soustraite à tout contrôle par le donné, tient bien lieu tout de même d'ontologie. Elle est ce que la critique permet d'ontologie, ou si l'on veut, ce qu'elle substitue à l'ontologie. Cette ontologie, depuis l'a priori, ou à son horizon, en tant que la vocation de celui-ci est précisément de connaître la connaissance des choses, est-elle suffisante pour restituer à cet a priori sa pleine signification mondaine de cadre de la rencontre avec ce monde? Ce n'est pas sûr. Les critiques qui pleuvront sur la subjectivité kantienne en tant que subjectivité démondanéisée, à commencer par celle de Heidegger, sont là pour l'attester. Le soupçon continue décidément de peser sur l'a priori kantien, qui ne constitue rien d'autre que la figure d'une forme de clôture de la subjectivité épistémique sur elle-même, au sens de ce qu'elle serait, en quelque sorte, avant, a priori, le monde. Ou pire, de ce en quoi elle constituerait toujours déjà la loi du dit monde, sans que celui-ci ne paraisse offrir de résistance. La mesure de ce en quoi la pensée, pour ainsi dire, serait toujours déjà chez soi. Bien sûr, localement, les choses peuvent ne pas être comme nous les pensons. Nous pouvons avoir tort factuellement. Mais qu'elles soient ou non précisément comme nous les pensons, c'est toujours exactement de la façon dont nous les pensons qu'elles sont ou ne sont pas comme nous les pensons. L'a priori que nous héritons de Kant serait définitivement la thèse de cette avance de principe de la pensée sur les choses. Une avance sans partage et que rien, définitivement, ne peut rattraper. C'est que, si la question de la possibilité de la rencontre avec autre chose est bien essentielle à l'épistémologie kantienne, je ne m'y attarde pas, mais il y a au moins une lettre à Beck, elle est du 4 décembre 1792 à Beck, où Kant dit bien que le problème critique, c'est le problème du rapport de la représentation à quelque chose d'autre, auf etwas anderes. Donc, c'est bien l'équation d'un sens du problème critique. Donc cette question du rapport à quelque chose d'autre est fondamentale à l'épistémologie kantienne. Seulement, en tant qu'épistémologie de l'a priori, l'épistémologie kantienne, d'une certaine façon, réinternalise cette question du rapport autre chose à l'économie du sujet, en tant que cette économie est une économie fondamentalement clivée, dualiste, et la question devient au fond celle du rapport d'une dimension du sujet à une autre. La rencontre dont le synthétique a priori formalise la structure, c'est essentiellement, chez Kant, celle du concept d'un côté et de l'intuition de l'autre. Le sujet rencontre quelque chose, mais ce quelque chose, en un certain sens, c'est lui-même. C'est lui-même en tant qu'une autre dimension lui-même. On a affaire à un sujet clivé, ce qui permet d'intégrer la dimension de rencontre nécessaire à ce que la notion d'a priori ait réellement une portée, que l'a priori soit réellement avant quelque chose et englobe réellement quelque chose. Bien sûr, dans ce jeu, il est essentiel qu'une partie du sujet soit vouée à recevoir. La notion de réceptivité est cruciale pour que la notion d'a priori puisse avoir un sens. En ce sens, dans la mesure où il y a cette notion de réception, il semble que cette partie du sujet, la partie du sujet qui est vouée à recevoir, fasse médiation avec l'extériorité. Sa réceptivité exprime la contrainte du réel, alors au fond comme une dimension même de l'a priori. Même si la rencontre de tel ou tel réel particulier, bien sûr, elle est a posteriori. Elle est cela même qui donne un sens à cette notion d'a posteriori, en contraste par rapport à laquelle, et dans sa complémentarité avec laquelle, l'a priori doit être pensée. Il n'est pas sûr, cependant, que cette notion de réceptivité nous fasse réellement sortir de l'horizon du rapport du sujet à lui-même, comme lieu même du partage entre a priori et a posteriori. En effet, c'est un point, là aussi, qui finalement est souvent négligé, parce que la notion de réceptivité est une notion qui a une telle fécondité dans les deux derniers siècles de philosophie que, d'une certaine façon, on projette sur elle une interprétation d'après-coup. Et puis, parce que peut-être que sur ce point-là, la lecture de Kant est décevante pour le goût des modernes ou postmodernes, puisqu'il y a comme une sorte de besoin post-kantien d'engagement ontologique direct avec les choses. Or, c'est pas ce que nous dit Kant. Il faut rappeler que dans les premières lignes de l'esthétique transcendantale, lorsque Kant définit la réceptivité se voit introduite exactement comme réceptivité du sujet à ses propres représentations. Ou en tout cas, d'abord à certaines d'entre elles. D'abord, puisqu'en réalité, si on suit l'esthétique transcendantale jusqu'au bout, et si on considère les remarques additionnelles de la deuxième édition à la fin de l'esthétique, on se rend compte que non, en réalité, c'est réceptivité à toutes les représentations, puisque même celles qui ne sont pas seulement reçues, mais également spontanément produites, même celles-là, nous y sommes sensibles, nous sommes sensibles sur le mode de la réceptivité. En fait, c'est la clé hein, de la notion de sens interne, telle qu'intervient à la fin de l'esthétique. Alors, donc, ça concerne en réalité pas seulement certaines représentations, mais toutes. Et en réalité, dans tous les cas, la réceptivité, c'est jamais réceptivité, bien sûr, à la chose. On ne peut pas recevoir la chose. La chose ne rentre pas, par définition, dans notre esprit. C'est une réceptivité toujours à des représentations. Donc, il n'est pas sûr que la réceptivité donne la possibilité d'une sortie, finalement, de la sphère de la représentation qui permettrait à la subjectivité épistémique d'être directement en rapport avec les choses. De toute façon, on peut dire que pour Kant, dans le synthétique a priori, plutôt que le sujet ne se confronte aux choses, comme si celles-ci avaient un sens indépendamment de cette confrontation, c'est plutôt la dimension active du sujet qui se confronte à sa dimension réceptive. Les structures de la saisie, donc les structures de la pensée, à celles de la réceptivité. Même si le sujet peut-être résiste à lui-même, certains aspects du sujet à d'autres aspects du même sujet, on a toujours l'impression en définitive que cette résistance est vécue à bon compte, est vaincue à bon compte, car on est resté sur le terrain du sujet lui-même. Et si la transparence n'est jamais complète, et il reste de l'opacité, cette opacité est toujours en dernier ressort, opacité du sujet à lui-même. Y a-t-il moyen de faire sortir l'a priori de ce tête-à-tête du sujet avec lui-même ? Qu'il ne soit plus a priori de la sensibilité, comme il tend à l'être lorsque lui est posée la question, qui lui est consubstantielle de l'ouverture sur le monde, mais qu'il devienne à proprement parler, a priori, des choses sensibles. Il me semble que c'est la question qui traverse les deux derniers siècles de réflexion sur l'a priori, avec une intensification évidemment au XXe siècle. En effet, la question post-kantienne de l'a priori s'y identifie très largement à celle de la possibilité et la nécessité de sa réontologisation. Une réontologisation en un sens plus substantiel que celui fourni par cette nécessité dans laquelle se trouverait le sujet de pensée de se mettre en adéquation avec les conditions de sa propre expérience. Ce qui se fait jour alors, c'est le besoin de relester ontologiquement l'a priori de peur qu'il soit acquis trop facilement, qu'il morde trop facilement sur le réel, parce qu'en réalité simplement sur lui-même. Le sentiment qui se fait jour, c'est le sentiment qu'un obstacle purement intérieur, celui d'un dualisme intérieur, ne suffit pas. Donc la question qui est posée massivement, et notamment au XXe siècle, spécialement, ça a été massivement celle d'une éventuelle contrepartie ontologique, ou bien, ça n'est pas la même chose, d'une dimension ontologique de l'a priori. C'est bien sûr lié à une montée en puissance de cette inquiétude quant à ce qu'il y a en face, ou ce qui est censé être en face du sujet. Donc, en un sens, cette inquiétude, évidemment, est corrélative également d'une mise en crise, mise en question, de plus en plus poussée, de cette notion de subjectivité telle qu'on l'héritait de Kant. C'est lié à une inquiétude sur le sujet, la montée en puissance de cette question du caractère pas seulement subjectif ou peut-être même primairement pas subjectif de l'a priori. Mais évidemment, ça veut dire que ça n'est que pour une pensée qui a posé d'abord le sujet et qui a posé le sujet d'abord, a priori, au sens de « en isolation », dans ce suspens qui était caractéristique de la pensée moderne, ce n'est qu'une pensée de ce type-là qui peut se poser, de façon aussi insistante, la question d'une éventuelle contrepartie ontologique de l'a priori ou d'une éventuelle dimension ontologique de l'a priori lui-même. C'est à la pensée du sujet que se pose cette question du hors-sujet ou plus que sujet ou contrepartie ou complément pour le sujet. Il faut garder en vue ce point, premièrement, eu égard aux limites qu'il impose à la question, sur laquelle j'essaierai de revenir pour terminer. Mais deuxièmement, également, d'abord pour ne pas se méprendre sur la portée réelle de ce tournant ontologique qu'un certain nombre de pensées ont tenté au XXe siècle d'imprimer à la question de l'a priori. En effet, s'il s'agit de réontologiser l'a priori, dans ce schéma de pensée, évidemment, ça ne peut pas être à n'importe quel prix. En fait, si peut-être il est besoin que l'a priori soit relesté d'une dimension ontologique, en un sens qui finalement ne peut pas être si modeste, au sens ça ne peut pas être la modestie hein, d'une simple analytique de l'entendement, comme disait Kant, donc s'il s'agit d'une dimension ontologique qui ne se réduit pas à ce que j'appellerais l'ontologie pléonastique de l'être connu, hein, l'être comme être connu, qui n'est que l'idole, pour parler comme Scheller, de la connaissance elle-même, cela ne peut sans doute pas se faire si on se contente d'effacer la dimension épistémique et si on prétend directement faire de la question moderne ou postmoderne de l'a priori une question purement ontologique. On ne peut pas basculer purement simplement dans l'ontologique, puisqu'au fond, ça ne répondrait pas à l'inquiétude initiale, puisque l'inquiétude est liée justement au fait de s'être installé dans cette perspective épistémique, qui est la perspective kantienne, enfin ouverte en tout cas par Kant. C'est d'ailleurs, je crois, un point que Dufresne, dans sa propre construction de la question de l'a priori, a parfaitement senti. Un basculement pur et simple, puisque chez Dufresne, il y a une demande aussi de réontologisation. En un sens, Dufresne arrive à la fin de cette trajectoire, d'une sorte de récapitulation. Il récapitule, il assigne le lieu de ce besoin de réontologisation. Mais en même temps, ce qu'il nous dit très clairement, c'est qu'un basculement pur et simple dans l'ontologie, ça ne marchera pas. En tout cas, si ce qu'on cherche à faire, c'est donner un sens à cette notion d'a priori, puisque d'une certaine façon, ça effacerait, écraserait purement et simplement la question de l'a priori. À cet égard, il est intéressant de se pencher de façon plus précise sur le motif introduit par la phénoménologie, ou d'ailleurs plutôt la proto-phénoménologie, de l'a priori matériel. L'idée d'a priori matériel, c'est-à-dire d'un a priori du contenu même, et ancré dans la nature même des contenus à connaître, dans la mesure où les dits contenus sont renvoyés à l'essence même des choses, comme c'est le cas dans la troisième recherche logique de Husserl. Je remarque une chose au passage, si on garde la première édition des recherches logiques, le texte de la première édition, dans la troisième recherche, c'est très intéressant parce que ça a été effacé dans la deuxième édition. Donc ça veut dire quelque chose. Dans la troisième édition, il y a un moment où Husserl réfère sa construction donc, de la logique des tout et des parties à l'arbre de Porphyre, au genre et aux espèces aristotéliciennes. Donc là, on a vraiment une sorte de point de vue naturaliste, enfin naturaliste au sens de l'histoire naturelle des anciens. Bon. Il y a un arrière-plan qui est l'arrière-plan d'une structuration ontologique, sa propre construction donc de l'a priori matériel, telle qu'il est introduit dans cette première recherche logique, se voit donc de la première édition adossée, j'allais dire implicitement, mais même pas implicitement, puisqu'il y a un passage où c'est dit, tout à fait explicitement, à l'ontologie, entre guillemets, au sens des anciens. Alors, on se dit, ben là, on trouve quelque chose qui va dans le sens de la réontologisation souhaitée, apparemment. Puisque l'a priori matériel renverrait alors en premier lieu à une sorte de contrainte eidétique exercée par les choses mêmes sur la connaissance, et plus globalement d'ailleurs sur la vie de la conscience intentionnelle dans ses différentes modalités, pas seulement dans ses modalités épistémiques. Il faut d'ailleurs remarquer que Husserl lui-même, dans son esquisse de préface de 1913 aux recherches logiques, classe bien la recherche 3, où cet a priori s'invente, comme ontologique et non pas phénoménologique. Vous savez, dans ce texte, il y a ce classement assez étrange où il distribue... Il y a les recherches logiques qui sont ontologiques, puis il y a celles qui sont phénoménologiques. Alors, la recherche 3, c'est ontologique. Alors, quoi que vaille cette distinction, qui en fait soulèverait bien sûr plein de problèmes, il paraît certain que la modalité suivant laquelle l'a priori matériel est introduit dans la troisième recherche logique de Husserl est significative d'une certaine forme de désubjectivation de l'a priori. On peut aborder cette question par un prisme, qui je pense est important pour exercer une prise sur la question de l'a priori. C'est les critères de l'a priori qui avaient été introduits par Kant. Alors, je rappelle, bien sûr, dans un passage fameux de la deuxième section de l'introduction de la critique de la raison pure, Kant nous disait une connaissance a priori, ça se caractérise par quoi ? Par son universalité et par sa nécessité. Alors, en ce qui concerne l'universalité, l'analyse husserlienne dans la troisième recherche logique et d'autres analyses phénoménologiques encore plus, il faudrait aller regarder de près des analyses comme celle de Jean Hering ou celle d'Ingarden dans leur texte ontologique. Ces analyses phénoménologiques auraient tendance à souligner l'équivocité de ce critère d'universalité. L'a prioricité étant adossée, pour ces analyses phénoménologiques, à l'existence d'essence. De fait, elle peut alors très bien revêtir, en tout cas la question peut se poser, de savoir si elle peut revêtir la figure de la structuration d'un contenu singulier. Tout dépend de la notion d'essence qu'on accepte. Si on accepte la notion d'essence individuelle, dans ce cas-là, il y a de l'a priori qui renvoie à du singulier, pas à l'universel. Alors, ça, c'est un débat interne à l'école phénoménologique. Des gens comme Ehring ou Ingarden, eux, vont très loin dans le sens de l'acceptation des sens individuels. Chez Husserl, c'est plus hésitant, mais il y a des textes qui vont dans un sens ou dans l'autre. Cependant, le grand écart avec le kantisme apparaît beaucoup plus nettement et sans doute de façon plus essentielle, sur le fond, en ce qui concerne le second critère, le critère de nécessité. Le critère de nécessité, c'est un critère modal. C'est très important parce que c'est le lien entre a priori et modalité, ce qui est quand même très caractéristique de l'approche kantienne et post-kantienne, donc de l'a priori. L'a priori matériel des phénoménologues, il faut le souligner, c'est ça qui explique d'ailleurs la popularité, en tout cas de la proto-phénoménologie, dans une certaine philosophie analytique à la fin du XXe siècle, après le tournant ontologique qui a connu la philosophie analytique dans les dernières années du XXe siècle, l'a priori matériel des phénoménologues ne se définit pas d'abord modalement. Ce n'est pas d'abord une question modale. Suivant un aspect de l'analyse ontologique qui est développé dans la troisième recherche logique, aspect qui sera mis encore beaucoup plus clairement en lumière par l'élève de Husserl, Reinhardt, c'est l'essence qui précède la nécessité et qui rend raison de la nécessité, et non pas la nécessité qui font de l'essence. En cela, certains commentateurs contemporains ont pu rapprocher la doctrine phénoménologique de l'a priori matériel de la position essentialiste aujourd'hui, par exemple, d'un Kit Fine. L'essence précède la modalité. Alors, bien sûr, ça ne veut pas nécessairement dire que la notion modale de nécessité perde toute pertinence en tant que marqueur de la connaissance a priori. Par définition, au niveau épistémique. Si on est au niveau de la connaissance, on est au niveau épistémique. Et au niveau épistémique, la modalité peut continuer à fonctionner comme principe de détection. Ça permet de détecter quelque chose. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui fonde cet a priori? Simplement, si cette nécessité constitue éventuellement un marqueur du caractère a priori d'un état de choses, cette dernière a priorité n'est pas fondée dans la nécessité, mais dans l'essence des choses concernées. En d'autres termes, l'a priori n'est pas essentiellement, n'est pas d'abord épistémique. Il est d'abord ontologique, et c'est en fait la dépendance de l'épistémique par rapport à l'ontologique, en tant que celui-ci est en lui-même structuré, que le niveau ontologique est un lieu où il y a des structures, qui s'expriment dans l'existence d'une connaissance a priori. Alors la question du lien entre a priori et modalité nous place évidemment au cœur du problème de la relation entre a priori et idéalisme moderne. Kant disserte que l'universalité, toujours dans l'introduction de la critique, disserte que l'universalité, au sens en tout cas de l'absence d'exception, pas exactement une exception, constitue un critère plus maniable pour détecter l'a priori que la nécessité, au sens cette fois de l'absence de contingence. Une absence de contingence, c'est pas facile à établir. En même temps, il souligne la co-appartenance et la solidarité essentielle des deux critères. Et d'une certaine façon, il faut le remarquer, dans le débat avec Hume, qui constitue l'arrière-plan de la critique de la raison pure, il est clair que la question de la nécessité, d'une certaine façon, l'emporte. C'est le caractère objectivement et non seulement subjectivement nécessaire de cette nécessité qui est vraiment le problème crucial. Cependant, d'un autre côté, l'objectivité de la nécessité, il faut le rappeler, c'est l'objectivité d'une catégorie modale. Or, c'est ça le point important, dans la critique de la raison pure, un sort tout à fait particulier est fait aux catégories modales. C'est pas des catégories comme les autres. Alors, ça veut pas dire qu'elles ont pas de valeur objective, mais si on peut dire, les catégories modales, c'est les structures de l'objectivité de la subjectivité, puisqu'elles sont essentiellement liées au statut épistémique de la subjectivité. Elles sont essentiellement liées à la constitution subjective de la connaissance. Bon, je vous rappelle le fameux texte des postulats de la pensée empirique, A219, B266, dans la critique, où Kant nous dit la chose suivante, les catégories de la modalité ont ceci de particulier en elles-mêmes, qu'elles n'accroissent pas en quoi que ce soit le concept qu'elles appliquent aux choses en tant que prédicat, elles ne l'accroissent pas en tant que détermination de l'objet qui est en question, mais elles expriment simplement le rapport qu'ont ces objets à notre pouvoir de connaître. Donc c'est les seules catégories qui sont pas seulement des catégories de notre pouvoir de connaître, mais qui sont des catégories dont l'objet même est la position de l'objet dans son rapport au pouvoir de connaître. Donc c'est des catégories qui comportent en leur sein même une référence à la dimension subjective du savoir comme tel. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont évidemment tout à fait fondamentales pour Kant. D'une certaine façon, c'est ces catégories qui cristallisent la pointe de l'idéalisme transcendantal. Dès lors, placer l'a priori d'abord dans la nécessité plutôt que dans l'universalité, ou disons plutôt dans l'universalité dans la seule mesure où il s'agit d'une universalité nécessaire. Parce qu'au fond, c'est ça, hein, quand il commence par nous dire l'universalité, bon, c'est plus facile comme critère, en réalité, c'est un petit peu une fausse fenêtre, parce que si on creuse, on se rend compte que pourquoi l'universalité est un bon critère. Évidemment, c'est en tant qu'universalité nécessaire. C'est pas le simple fait que, bizarrement, il n'y a pas d'exception. C'est qu'en réalité, il est nécessaire que ça soit toujours comme ça. Donc, placer l'a priori au fond essentiellement dans la nécessité, c'est essentiellement le reverser au compte de la subjectivité. Le reverser au compte du primat de la subjectivité dans la connaissance. Alors, deux types de renversement de cette conception sont concevables. Premièrement, on ne peut pas exclure des stratégies de type réalisme modal. Des stratégies qui consistent à replacer les modalités, à refuser Kant, au fond, et à placer les modalités dans l'être même, en faire des dimensions de l'objet même, et non pas des caractéristiques du rapport de l'objet au pouvoir de connaître. Donc, il faut les traiter comme des catégories, comme les autres. Il y a les catégories modales, ben voilà, c'est le quatrième type de catégories, qui sont des catégories constitutives de l'objet. Alors, c'est la stratégie qu'on pourrait appeler de réalisme modal pur et dur, qui consisterait non pas à éliminer la notion de nécessité, mais à faire de la nécessité une dimension de l'être même, faire de la nécessité une propriété ontologique, stricto sensu. Alors, de ce point de vue-là, bon, il y a une tradition. Hein, par exemple, on peut remarquer une chose, c'est que dans son fameux ouvrage « Naming of Necessity », donc en français, c'est traduit sous le titre « La logique des noms propres », Kripke, par exemple, contraste ce qu'il appelle les modalités épistémiques avec ce qu'il appelle les vraies modalités d'erré, les vraies modalités à propos de la chose qui, elles, ne sont pas des modalités épistémiques. Alors, évidemment, après, il faut être prudent, parce qu'il faudrait regarder de plus près. Et alors, il oppose aussi, parfois, il parle de modalités métaphysiques. Il oppose les modalités métaphysiques et les modalités épistémiques. Bon, c'est une façon de construire une pensée à modalité qui n'est plus qu'ancienne. Mais en même temps, il faudrait regarder de plus près, parce que une question se pose très vite, c'est ce que ce genre d'auteur appelle modalités métaphysiques, est-ce qu'elles sont réellement désépistémisées? Est-ce qu'elles sont... en quel sens elles sont pas épistémiques? En fait, ce qu'il faut constater, c'est que dans ce réalisme modal, il y a des choses très diverses. Un réalisme modal peut être de nature très très différente. Et finalement, le cas du réalisme modal pur et dur, qui consisterait à traiter les catégories modales vraiment comme des catégories comme les autres, purement et simplement, est finalement assez rare. C'est pas qu'il n'existe pas. Je pense par exemple qu'en un certain sens, on pourrait lire Meinong un petit peu de cette façon-là. Il y a, chez Meinong, on s'intéresse toujours aux objets impossibles, etc. Mais il y a aussi d'abord une pensée du possible, du probable, du vraisemblable. Il y a une pensée des modalités très, très fine, et c'est une pensée des modalités comme dimension vraiment de l'objet même. Il y a un réalisme modal, la pure et dure, anti-kantien en ce sens-là. Mais par exemple, chez Kripke, c'est plus compliqué, parce que chez Kripke, c'est toujours lié, bien sûr. En fait, les modalités métaphysiques, en tout cas, elles ne sont pas désémantisées. Elles sont toujours liées à la question de la vérité. Alors, si on est sur le terrain de la question de la vérité, bien sûr... Vérité et connaissance, c'est pas pareil. Il faudrait distinguer le sémantique et l'épistémique. Mais enfin, est-ce qu'on est du côté de l'ontologique pure, ou est-ce qu'on n'est pas déjà dans un horizon qui est un horizon épistémologique au sens large du terme? Donc, je suis pas sûr que ça soit si opposé que ça, si absolument opposé que ça à Kant de ce point de vue-là. On a tout de même le sentiment que dans la pensée moderne, il y a eu pas mal de tentatives dans ce sens-là au XXe siècle, mais on a le sentiment que la pensée moderne a beaucoup de mal à se dégager de l'interdit kantien. Qui interdit de traiter les catégories de la modalité comme des catégories tout à fait comme les autres, et qu'elle a beaucoup de mal à se dégager d'une entente entre guillemets subjectiviste des modalités au sens très large du terme. Après, bien sûr, il y a des degrés de subjectivité. Cette subjectivité peut avoir des adresses différentes et des statuts différents, mais on a tout de même l'impression qu'on a beaucoup de mal à ne pas réépistémiser et ou resubjectiver la modalité d'une façon ou d'une autre. Donc cette stratégie-là, elle n'est pas inconcevable, mais elle paraît assez rare. L'autre stratégie, ben, c'est la stratégie qui consiste non pas à contrer Kant sur le terrain modal en invoquant un réalisme modal de premier degré contre l'épistémisation des modalités, mais c'est la stratégie qui consiste à secondariser la dimension modale. Dire, mais oui, mais c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est pas la dimension modale, donc c'est pas la nécessité. Laissons la nécessité à la subjectivité. On va pas disputer à Kant le caractère subjectif des catégories modales. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire pour ces catégories des fondements non modaux du côté objectif. Alors ça, c'est la stratégie essentialiste. La stratégie essentialiste qui ne rend pas l'être nécessaire, mais qui fonde plutôt la nécessité dans l'être. C'est-à-dire dans le fait que celui-ci soit structuré. Alors, une remarque au passage, chez Kripke, il y a aussi une forme d'essentialisme. Seulement, ce qui est embêtant, c'est que c'est l'essentialisme qui ne nous débarrasse pas du primat de la modalité, puisqu'en fait, c'est un essentialisme qui définit l'essence en termes de nécessité, qui définit l'essence en termes de trait nécessaire, propriété nécessaire. Donc on n'est pas tiré d'affaire. L'essentialisme pur et dur, c'est plutôt celui qu'on trouverait en un sens sous-jacent à la troisième recherche logique de Husserl, ou bien aujourd'hui chez Kitfine, là, de façon tout à fait frontale, explicite, Kitfine explique, c'est pas la notion de nécessité qui est première, c'est les essences qui sont premières. Après, il y a des choses qui sont nécessaires, mais pourquoi elles sont nécessaires? En raison de l'essence qu'ont les choses en question. Donc là, on a une stratégie de subversion du primat du modal, et une tentative de secondariser le modal, le penser en aval, et non pas en amont. Alors ça, évidemment, c'est beaucoup plus éloigné de Kant. C'est beaucoup plus difficile de recantiser un tel point de vue. Alors, ce à quoi je voulais en venir, pas être une digression, mais ce à quoi je voulais en venir, c'est que si on s'installe sur ce terrain-là, qui au fond est un terrain qu'on peut aussi penser dans une certaine continuité avec la tendance de la première phénoménologie, hein, avant le tournant transcendantal, à penser une espèce d'a priori objectif qui serait un a priori lié à une idée éthique, supposé en un sens quasi naturaliste, au sens de voilà, il y a des structures de fait de l'être, tel genre de choses, ça a tel et tel genre de propriété. Si on va par là, ben en fait, si on y réfléchit, il est assez difficile de conserver un sens à la notion d'a priori dans ce cas-là. Ou en tout cas de conserver un sens qui ait vraiment un rapport avec la question de l'a priori telle qu'elle était posée dans le kantisme et le post-kantisme. Donc ce que je veux dire, c'est que cette stratégie, je ne suis pas sûr qu'elle puisse répondre à la demande qui était la demande de réontologisation, parce que réontologiser, ça ne veut pas dire basculer purement et simplement dans l'ontologie. Ça veut dire introduire, c'est un peu dire la dose d'ontologie qu'il faut pour rééquilibrer, redéfinir un point de vue qui tienne compte de ce besoin d'avoir une sorte de répondant pour l'a priori dans les choses mêmes, comme dirait la phénoménologie. Dans une perspective qui se contente de poser une idée éthique des choses, contente de poser, faire un ordre ontologique a priori, je pense que la notion d'a priori devient équivoque si cette stratégie est pure, si elle n'est pas combinée avec autre chose, s'il n'y a pas en réalité autre chose que ça. Il y a vraiment une grande difficulté à conserver un sens, en tout cas fidèle au type de problème dont on était parti, à la notion d'a priori, si l'a priori bascule complètement, sans reste, sur le verso objectif. Au fond, il faut au minimum que cet a priori objectif se manifeste. Il faut qu'on conserve cette question de la manifestation pour que ça ait encore un sens. Et évidemment, ça ne suffit même pas encore, parce qu'il faut qu'il se manifeste a priori. En fait, il faut qu'il y ait cette question de la possibilité, pour ce qui est a priori, de se manifester lui-même a priori. Donc, il faut qu'il y ait... On était parti du sujet, la question était celle du répondant de l'autre côté, mais en fait, la question se symétrise. Si on déploie un plan de structure a priori, il va forcément y avoir la question de l'a priori subjectif qui va se reposer. Si on a basculé dans l'a priori objectif pur, la question de l'a priori subjectif est inévitable, si on veut garder un sens à cette notion d'a priori. Alors, il me semble que c'est, en un sens, une intuition qui est vraiment au cœur du travail de Dufresne. Il faut qu'il y ait... On ne peut pas se contenter de poser des structures a priori. Il faut qu'elles se manifestent, et il faut que la question soit posée de leur capacité à se manifester, au moins dans une certaine mesure, elle-même, a priori. Et cela, sans qu'on puisse jamais postuler une transparence complète entre ce caractère a priori de la manifestation de l'a priori objectif, donc ce qu'on appellera a priori subjectif, et puis cet a priori objectif lui-même. Donc, à défaut de rétablir la supposée avance du sujet, qui était le sens kantien de l'a priori, il faut au moins arriver à maintenir un écart. À défaut de l'avance du sujet, il faut bien maintenir de l'écart entre du subjectif et de l'objectif, ayant chacun une consistance, ayant chacun une épaisseur. Alors ça, c'est l'idée de ce que j'appelle le dédoublement des a priori, qui en un sens paraît constitutive de l'idée même d'a priori, si on veut que cette idée garde son épaisseur, que cette idée puisse pas être réduite, puisse pas être analysée d'une façon qui la ferait disparaître au fond dans sa spécificité. Alors ça revêt évidemment une forme un peu paradoxale chez Dufresne, c'est cette remarque importante qu'il fait, page 140, de la notion d'a priori, lorsque, à la place du motif traditionnel et dans lequel on a circulé jusqu'ici, de la connaissance a priori, le site traditionnel de la notion d'a priori, c'est la question de la connaissance a priori, ou bien en tout cas venant complexifier ce motif, Dufresne introduit cette idée assez extraordinaire de la possibilité de l'ignorance ou la méconnaissance de l'a priori. L'a priori est essentiellement ce qu'on peut ignorer. Il faut qu'il soit possible de se tromper dessus. Alors évidemment, c'est très paradoxal, puisque dans une certaine représentation traditionnelle de la question de l'a priori c'est justement ce sur quoi on ne peut pas se tromper. Évidemment, tant qu'on a affaire à un a priori purement subjectif. À partir du moment où il y a de l'a priori des deux côtés, En un sens, la question de l'adéquation ressurgit d'une autre façon, la question de comment arriver à faire coller les choses, et il est essentiel que ça puisse ne pas coller, qu'il puisse y avoir de l'écart. Donc au fond, l'idée est assez simple, l'idée c'est que pour que la notion d'a priori garde une consistance, il faut que la notion d'apparaître ait sa légitimité, mais pour la notion d'apparaître ait sa légitimité, évidemment, elle ne peut l'avoir que dans la mesure où elle peut être en défaut, que dans la mesure où ça peut ne pas apparaître. Donc il y a cette idée assez extraordinaire, la formule, l'a priori peut ne pas nous apparaître. Ce qui est quand même assez incroyable si on réfléchit, puisque d'une certaine façon, une certaine lecture traditionnelle de la notion d'a priori serait c'est ce qui ne peut pas ne pas nous apparaître, c'est ce qui apparaît de toute façon, d'une certaine façon. Et là, on nous dit, mais non, ça peut ne pas nous apparaître. Ce qui n'est pas la même chose d'ailleurs que de dire, parce qu'une autre stratégie consisterait à dire, en fait, c'est pas ce qui apparaît de toute façon, c'est justement ce qui n'apparaît pas, parce que c'est dans tout apparaître, mais c'est pas ce qu'il dit là. Ce qu'il dit... indique que ça pourrait très bien apparaître, mais il se peut aussi que ça n'apparaisse pas. Il y a ce problème de quelque chose qui peut apparaître ou ne pas apparaître. Alors évidemment, ça suppose une chose, c'est que tout ça n'a de légitimité que dans la mesure où on est installé dans l'élément de l'apparaître, que dans la mesure où la notion d'apparaître a un sens, et on est dans un dispositif où la question est celle de l'apparaître. Donc évidemment, ce qui est très fascinant chez Dufresne, c'est que Dufresne opère une forme de décorrélation dans la corrélation elle-même. Et je pense qu'il y a quelque chose de très juste là-dedans. Je pense que il touche probablement là une condition pour que la notion d'a priori puisse conserver un sens. En effet, si celle-ci marche trop facilement, si les structures de la représentation s'enfoncent comme dans du beurre dans le représenté, alors la notion d'a priori n'a plus de sens. Une résistance qui, en un certain sens, doit nécessairement opposer, mais aussi faire répondre, l'a priori à l'a priori. En fait, l'opposition est la condition pour qu'il y ait à proprement parler réponse, et donc que l'a priori ait sa portée. La condition de cette opposition est que, tout comme le sujet, qu'on avait vu tout à l'heure, finalement a une nature, ce qu'il y a en face de lui en a une aussi. Il y a une nature. Tout comme la nature du sujet est nécessaire à donner une consistance à la face subjective de l'a priori, cette nature est nécessaire à donner une consistance à sa face objective. Cette construction ingénieuse, et probablement seule de nature à donner son plein sens à la notion d'a priori, appelle à mes yeux deux remarques. La première aura trait à ce qu'on appellera son instabilité, c'est-à-dire à la tendance qu'elle a à résorber l'écart même que pourtant elle veut maintenir. Là même où il s'agit au départ de sauvegarder la transcendance nécessaire à la possibilité de l'a priori, parce que celui-ci a un sens, on voit à l'œuvre constamment comme le retour d'une forme de tentation de l'immanence. Vers la fin, à l'avant-dernière étape de la notion d'a priori, Dufresne consacre des pages très pénétrantes à cet écrasement de l'apparaître dans l'être qui, selon lui, serait caractéristique de la pensée de Heidegger. Il y voit la résorption de cette béance qui serait nécessaire à la notion d'a priori. Pour que celle-ci ait lieu, précisément, puisque la question chez lui, c'est bien celle du lieu de l'a priori, il faudrait que l'écart soit maintenu, cet écart qu'à ses yeux tend à abolir la pensée de Heidegger. Alors, il y aurait certainement bien des raisons de nuancer cette analyse. En effet, au-delà même de la répétition assez grossière du schéma l'idéalisme transcendantal qu'on voit dans Ein und Zeit, il est probable qu'on retrouve un certain sens de l'écart souhaité par Dufresne, y compris dans les textes de Heidegger plus tardifs, comme au premier chef, par exemple, dans Identité et différence, suivant la problématique de la présence et du retrait, qui est vraiment essentiel au dispositif de Heidegger. Mais il est vrai que, contrairement à ce que Dufresne semble tenir pour nécessaire, cet écart qui est en un sens l'être même n'est plus alors chez Heidegger écart d'un sujet à autre que lui. C'est vrai que c'est une thématisation de l'écart qui ne passe pas par la notion de sujet. Le point important, cependant, n'est pas là. C'est qu'après nous avoir mis en garde contre le fantasme de la fusion et de la pure et simple adhérence dans laquelle s'abîme l'a priori, dans tout le dernier temps suggestif et énigmatique à la fois de la notion d'a priori, Dufresne semble accorder à la poésie, ou plutôt au poétique, puisqu'il y a du poétique dans les choses mêmes, ce qu'il a refusé à la philosophie, à savoir la communication directe et, si on peut dire, l'harmonie spontanée des a priori, lorsque l'a priori du sujet reconnaît spontanément et, pour ainsi dire, immédiatement, celui de l'objet et, en un certain sens, fusionne avec lui dans un même sens de la naturalité. Il est difficile, d'ailleurs, au passage, de ne pas voir là une transposition assez directe, pour ainsi dire, une forme de réontologisation du thème kantien du libre jeu des facultés. Simplement, de la bonne nature du sujet, qui était supposé au départ et constituait un maillon non négligeable de l'analyse, on est passé à la communion de la nature du sujet et de la nature tout court, dans un même sens de la naturalité, alors que plane sur l'analyse l'ombre d'une nature, avec un grand N, constituant comme une racine commune des a priori, ou de l'a priori dans son dédoublement nécessaire. Si cette origine paraît ne pas pouvoir faire l'objet d'un savoir philosophique, sauf à refermer la dualité que précisément il faut philosophiquement maintenir, elle est néanmoins postulée, et plus encore, il est postulé qu'elle est en quelque façon donnée. Elle est donnée dans l'expérience esthétique. Aussi, la philosophie de l'a priori paraît-elle de nouveau prise dans une forme de tension constitutive, vouée à une oscillation entre le besoin de rouvrir un écart entre des termes qu'à un autre niveau, elle est conduite à renvoyer à une commune origine au point d'être toujours tentée de les confondre. Cette instabilité pourrait être conçue comme ce qu'on pourrait appeler l'instabilité interne de la philosophie de l'a priori. La deuxième et dernière remarque adoptera cette fois un point de vue externe sur une telle philosophie de l'a priori, en interrogeant le présupposé qu'elle maintient tout uniment depuis le début, à travers les différentes figures qu'on a pu visiter, et sans lequel, me semble-t-il, elle n'a pas de sens. Dans l'ensemble, dans la philosophie des deux derniers siècles, c'est-à-dire essentiellement post-kantienne, le débat récurrent sur l'a priori se fixe sur la question de son irréductibilité. Y a-t-il réellement là quelque chose qu'on puisse retirer à l'expérience, qui soit placé dans une forme d'immunité par rapport à toute remise en question qu'elle apporterait et qui soit soustrait à son contrôle. Y compris dans ses retours récents dans l'espace de la philosophie dite analytique, la question de l'a priori, encore une fois, semble intimement liée à celle du naturalisme. L'a priori est à la fois toujours de nouveau menacée par les prétentions à s'absolutiser, se clore sur elle-même de l'analyse de type naturaliste, et en même temps, c'est par rapport à cette analyse seulement qu'il a un sens, et peut-être l'appelle-t-elle elle-même inévitablement, en quelque sorte, pour y adosser sa propre absoluité. À cet égard, l'analyse de Dufresne touche certainement une question cruciale en essayant de faire ressortir la possibilité d'un autre sens de la nature. D'un autre sens de la nature, de part et d'autre de la fracture qui traverse l'a priori, que celui construit par le naturalisme. Un sens de la nature, précisément, selon lequel, de part et d'autre de cette division, elle ne serait pas seulement objet, mais expressive, y compris du côté des choses mêmes. L'intérêt de cette investigation ontologique, ou plutôt indissociablement ontologico-anthropologique, qui vient bousculer les structures de la modernité, est évident. Il est clair qu'au-delà de Dufresne, la question de la sortie du naturalisme, qui passe au premier chef par la libération d'un concept de nature ayant regagné une certaine forme d'épaisseur ontologique et anthropologique, est la grande question qui traverse aujourd'hui la philosophie post-moderne. Il faut cependant s'arrêter sur ce que cette remise en forme du problème, novatrice par bien des côtés, continue de présupposer. L'intuition de Dufresne, probablement juste, est qu'il est impossible de sauver la notion d'a priori sans maintenir d'une certaine façon la notion de sujet contre ce qu'il perçoit comme sa destitution contemporaine, à commencer par l'absolutisme heideggerien de l'être qui se manifeste lui-même, qu'il interprète comme théologique dans son essence. J'entrerai évidemment pas dans cette discussion, qui supposerait probablement bien des précisions et rectifications sur le sens ou les sens dans lesquels il peut être légitime d'employer l'adjectif théologique. En revanche, ce qui me paraît important pour terminer, c'est de relever l'arrière-plan épistémique sur lequel ce discours de l'a priori, réarticulé avec lucidité par Dufresne, continue de faire fond, y compris lorsque, comme c'est essentiellement le cas chez Dufresne, l'objectif est de généraliser ou peut-être de transformer le concept de l'a priori au-delà des limites du champ de l'épistémique à proprement parler. Le point en jeu n'est alors peut-être pas tant l'orientation épistémique de l'analyse, même s'il est difficile de ne pas faire du concept d'a priori tel que nous le connaissons depuis Kant un rejeton de ce primat de la perspective épistémique caractéristique de la philosophie moderne, que le type de structure que suppose cette question épistémique. Et ça vaut au-delà, évidemment, de la réduction de l'a priori à l'épistémique. Cette structure, nécessaire à donner un sens à l'idée de cet écart que Dufresne met si heureusement au centre de son analyse, est celle suivant laquelle il y aurait un sens à considérer quelque chose comme donné. L'a priori se définit d'abord en contraste par rapport aux données, puis la dialectique propre à cette notion conduit à le voir comme une dimension de l'idée de donner même. Pas de données sans a priori, et en un certain sens, l'a priori est a priori du donné comme tel. Enfin, à un certain égard, un point de vue comme celui de Dufresne conduit à restituer un sens à l'idée que l'a priori, d'un côté et de l'autre, de la fracture qui le traverse, puisse, et en un certain sens, doive lui-même être donné comme tel. quel que soit l'effet de brouillage, de connivence entre l'a priori et l'a posteriori qui en résulte, il n'en reste pas moins que la légitimité de ce concept dépend toujours entièrement de la possibilité de définir un écart suivant lequel précisément quelque chose puisse être donné. L'être donné, tel qu'il est institué par Kant dans les premières lignes de l'esthétique transcendantale, demande bien l'horizon sous lequel la notion de l'a priori, la question de l'a priori, peut seulement être posée. Or, au-delà des manœuvres autour de ce concept, peut-on, au premier chef, sauvegarder l'étanchéité de la question kantienne « qu'est-ce qui peut être donné ?» par rapport à la question « qu'est-ce qui est donné ?» suivant la difficulté formulée par Scheler, relevée et réélaborée en notre sens par Dufresne. Au-delà donc de ces débats autour du donné, est-ce que la bonne question c'est « qu'est-ce qui peut être donné ?» c'est « qu'est-ce qui est donné ?» et dans ce cas « qu'est-ce qui peut l'être ou pas ?» il y a certainement lieu de s'interroger sur les présupposés même de ces questions, les présupposés de la notion même de donné, et sur le dispositif théorique qui lui est sous-jacent. De façon intéressante, c'est précisément ce qui ressort sur un mode très simple et non spéculatif des considérations consacrées par Austin dans un texte de jeunesse à la notion d'a priori. Le contexte est en lui-même digne d'être noté. Il s'agit d'un symposium sur le sujet « Aver et Prior Concepts » publié dans un volume supplémentaire des Proceedings of the Aristotelian Society en 1939. Cette publication donne une idée, en premier lieu, bien sûr, de la présence de la question de l'a priori et d'un débat sur l'a priori dans la philosophie britannique de la première moitié du XXe siècle. Évidemment, on remarquera que cette question revêt ici prioritairement la forme d'une interrogation sur l'existence d'éventuels concepts a priori. Alors évidemment, on sera tenté de référer ce fait à l'incapacité supposée d'une certaine philosophie de type analytique ou proto-analytique à envisager l'a priori sur un terrain autre que conceptuel. La question est de savoir si certains concepts sont a priori, mais il ne semble pas être envisagé que quoi que ce soit d'autre que des concepts puisse être a priori. Or, dans la lecture kantienne de la question de l'a priori, telle qu'elle détermine toute la ligne de ce que j'ai appelé philosophie de l'a priori, qui en un sens s'accomplit avec Dufresne, ou en tout cas dont celui-ci dévoile réflexivement l'intention, il est certainement essentiel que l'a priori n'est pas seulement un visage conceptuel. D'une certaine façon, il ne prend sens précisément que dans l'écart entre le conceptuel et le non-conceptuel. En ce sens, il serait erroné de tenir l'a priori esthétique, l'a priori de l'intuition, tel qu'il est exposé dans l'esthétique transcendantale, pour un simple plan d'application de la question de l'a priori, l'analytique des concepts en constituant un autre parallèle. En réalité, l'existence d'un a priori esthétique, c'est-à-dire d'un a priori du donné comme tel, est une condition essentielle de la consistance de la question de l'a priori même. Encore une fois, l'idée de donner est nécessaire à creuser l'écart constitutif de l'a priori. Donc, on pourrait penser qu'en ce sens, ce débat anglophone d'avant-guerre, Aver et Prior Concepts, manque la question de l'a priori, sans doute parce qu'il l'aborde suivant des modalités qui peuvent paraître fondamentalement extérieures à une interrogation philosophique de type transcendantal, ou une interrogation philosophique critique sur le transcendantal, comme on trouverait chez Dufresne, précisément caractéristique de cette tradition que j'ai pointée sous le titre de philosophie de l'a priori. À cet égard, il pourrait être intéressant de noter qu'un élément central de la discussion ouverte par Austin dans cette rencontre a trait précisément à l'usage par ses interlocuteurs, qui défendent l'existence de concepts a priori, de ce type d'argument qu'Austin lui-même, en 39, appelle « arguments transcendantaux », sur lesquels le débat commence alors à se développer précisément dans le contexte de la philosophie anglophone. Alors bien sûr, les supposés arguments transcendantaux ne font pas eux seuls une philosophie transcendantale. L'apparition de ce débat dans le contexte de cette discussion sur les concepts a priori ne doit cependant évidemment rien au hasard. Ce n'est cependant pas sur ce point que je me concentrerai. Si les deux interlocuteurs d'Austin, à leur façon, défendent ou en tout cas envisagent l'existence de concepts a priori, cette interrogation est chez eux indissociable de celle ayant trait à l'éventualité d'une intuition qui serait autre que sensible et qui nous donnerait dans l'évidence de tels concepts. On n'est donc pas si loin de l'essentialisme ou sur rien, et en tout cas la référence à l'intuition n'est pas absente, même si l'interrogation se concentre sur le fait de savoir s'il y a lieu ou non d'accorder la possibilité d'une intuition exceptionnelle parce que non sensible, et si l'intuition sensible, quant à elle, semble à première vue être conçu comme essentiellement non problématique par les interlocuteurs d'Austin. Ça va de soi, on sait bien comment ça marche. Mais c'est précisément sur ce point qu'Austin va leur répondre, d'une façon aussi simple qu'essentielle. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, car il me semble que ces remarques touchent en réalité, en son cœur, le dispositif sous-jacent à toute la question de l'a priori, entendu au sens moderne, post-kantien du terme. La dernière partie de la contribution propre d'Austin, à la fin du débat, est consacrée à la question de savoir s'il est nécessaire d'introduire quelque chose comme une connaissance non sensible de la ressemblance, ça se fixe sur la question de la ressemblance, qui viendrait s'ajouter à l'expérience sensible des termes qui se ressemblent. C'est en effet un des candidats au rôle de concept a priori pour lequel a plaidé William McLagan dans sa propre intervention. Dans son argumentation, McLagan s'est appuyé sur l'idée, commune chez les philosophes, qu'il y aurait moyen de circonscrire exactement la sphère de ce que l'on sent par opposition à ce qu'on ne sentirait pas. Et en d'autres termes, il s'est appuyé sur l'idée qu'il y aurait un moyen de dire ce que l'on sent, qu'on pourrait dire ce que l'on sent. Or, que l'on puisse dire ce que l'on sent, en un certain sens obvie, ne fait aucun doute. Mais l'interprétation plus emphatique de cet énoncé, chère à une certaine philosophie, suivant laquelle il y aurait un sens à dire exactement ce que l'on sent, rien que ce que l'on sent, paraît évidemment beaucoup plus problématique. En effet, de ce que l'on sent, il y a toutes sortes de choses à dire, de géométries très différentes les unes des autres, et sans qu'il y ait de moyen si évident de faire le tri et de distinguer là ce qui, à proprement parler, relèverait du sensible ou non. À vrai dire, il y aurait plus de raisons à procéder en sens inverse. Dire que si on peut le sentir, alors c'est donc que c'est sensible, et donc que c'est une chose qu'il est légitime d'appeler sensible en un sens ou en un autre. Ainsi, contextuellement, peut-on, de fait, tout à fait dire d'une ressemblance qu'elle est sensible. Cette analyse va en cela dans le sens d'une déconstruction d'un certain type d'empirisme réductionniste, critique qui évidemment plaira aux kantiens, pour peu bien sûr que ceux-ci parviennent à s'affranchir du représentationnalisme, puisque c'est comme ça en réalité qui est la cible de la critique. Ce qui m'intéressera toutefois ici, par rapport au problème qui nous intéresse dans ce séminaire, c'est qu'au-delà de la critique de la possibilité d'assigner des limites aux données, puisque c'est ça la question, c'est où est-ce que je vais passer la limite, c'est en fait la légitimité même de la notion de données que Austin interroge. En effet, nous dit-il, que sert-elle à distinguer de quoi ? Dans sa propre communication, son interlocuteur, McLagan, faisait lui-même sur ce terme de « given », donné, une remarque qui se voulait clarifiante, conduisant à le prendre dans sa plus grande extension et à ne pas fermer complètement la porte à un donné non sensible. McLagan disait « given », entre guillemets, c'est-à-dire « present to consciousness as its object », présent à la conscience en tant que son objet. Et il ajoutait « I don't think we are entitled to read more into what given than this ». Je ne pense pas que nous soyons habilités, que nous soyons autorisés à mettre quoi que ce soit de plus dans ce mot donné, à lire quoi que ce soit de plus dans ce mot donné. Donc, stratégie de minimalisation délibérée, voilà, on prend un sens le plus minimal, le plus indéterminé possible. À ce titre, on remarquera qu'il ne mobilisait rien d'autre que cet écart même, celui de la conscience à son objet, dans lequel vient se loger tout le problème qu'on a discuté. Mais donner par opposition à quoi ? Demande Austin. Pourquoi appeler ça en particulier donner ? Ce faisant, inévitablement, il nous renvoie, même si c'est sans le dire, à des formulations qui sont celles-là même du début de l'esthétique transcendantale, par rapport auxquelles il formule un simple doute, mais un doute qui pourrait bien s'avérer infiniment déstabilisateur par rapport à toute l'épistémologie moderne et à ce qui en dépend, aussi bien à certains types de remise en question de l'épistémologie moderne. Le mot donné, dit-il, est infortuné. En effet, il suggère plusieurs choses. Alors, d'abord, en premier lieu, que quelque chose vous est donné par quelqu'un. La grammaire usuelle du verbe donner suppose en effet un agent. On pourrait dire que l'usage transcendantal du terme a précisément consisté à annuler une telle présupposition, à la mettre hors jeu. La question, cependant, est de savoir si une telle libération peut s'effectuer sans dommage. Le propos de Sting, comme toujours, n'est pas du tout d'interdire un usage, c'est de dire, oui, tu peux l'utiliser quand on ne fait pas d'habitude, dans ce cas-là, définis. Dans ce cas-là, montre-nous comment ça marche. Et à quelles conditions cette libération est bien faite ? C'est-à-dire à quelles conditions l'ombre d'un agent continue pas de polluer cet usage-là ? Et à quelles conditions cette ombre ne pèse pas trop lourd ? On rend pas, finalement, le propos ambigu et non maniable. Alors, on remarquera au passage, c'est amusant, c'est purement fortuit, mais que, en fait, on trouve ici, avant la lettre, le débat entre Jean-Luc Marion et Dominique Janicot sur la donation. Alors, Marc d'Austin Évidemment, le contexte est complètement différent, mais c'est une remarque ayant trait à la grammaire hein, du donner. Et aussi, il nous dit, bah oui, donner jusqu'à nouvel ordre, il y a quelqu'un qui donne. Mais ce qui n'est pas un plaidoyer pour la notion en ce cas-là, c'est plutôt une marque d'incompréhension dans ce cas-là. Que veux-tu dire quand tu dis que l'expérience est donnée? Le deuxième point est beaucoup plus important par rapport à notre question. Et à vrai dire, je pense vraiment tout à fait capital. Il est trait au fait que ce qui est dit être donné dans la pensée post-kantienne l'est toujours par opposition, par contraste avec autre chose, par contraste avec quelque chose qui serait censé au contraire être fait, produit ou pris. Taken as opposed to given. Le sensible n'est donné, c'est-à-dire reçu, puisque je le considère comme donné parce qu'il m'arrive, que dans son contraste avec les pensées dont nous serions censés avoir l'initiative. C'est dans ce contraste et cet écart, on l'a remarqué, que venait se loger la question de l'a priori, c'est-à-dire la question précisément de sa capacité à fonctionner en tant qu'a priori. Or, le principe de cet écart, souligne Austin, est éminemment opaque. Il n'est pas clair, dit-il, qu'il y ait quelque sens que ce soit dans lequel mes pensées seraient en mon pouvoir, alors que mes expériences sensibles ne le seraient pas. En fait, c'est la distinction même entre réceptivité et spontanéité qui pourrait reposer sur une bien mauvaise métaphore. C'est-à-dire une métaphore qu'on ne voit pas bien comment utiliser. Alors, on pourrait bien sûr être tenté d'interpréter ainsi cette remarque. On pourrait dire, mais après tout, ce qu'il veut dire, c'est que dans ce cas-là, il y a bien un sens dans lequel mes pensées aussi peuvent m'être dites données. Et à vrai dire, effectivement, on peut tout à fait se poser la question, dans quelle mesure mes pensées m'arrivent. Il n'y a pas de raison de restreindre, a priori, la sphère du donné à celle du sensible. Je remarque au passage, d'ailleurs, qu'on trouve un geste de ce type-là, là aussi, en un certain sens, chez Jean-Luc Marion, dans l'extension qui donne un concept de donation. Alors, évidemment, l'analyse de ce qui sépare Austin ne va pas dans ce sens-là, parce que pour lui, il ne s'agit pas d'élargir la notion de donner, comme si on savait ce que c'est, donc on pouvait, sur cette base-là, l'élargir, mais il s'agit plutôt, prenant acte de l'écart que cette notion était censée creuser, de s'interroger sur la possibilité de l'utiliser si on n'arrive pas à tracer réellement cet écart. Si tout est donné, plus rien ne l'est. Donc ce qu'il nous dit, c'est je ne comprends pas bien, vous appelez ça donné avec une forme d'évidence, je ne comprends pas bien pourquoi vous parlez de ces termes-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Enfin, en dernier lieu, Austin nous invite à considérer d'un œil soupçonneux ce que positivement était censé apporter la notion de donné. Les deux derniers siècles de philosophie ont consisté essentiellement dans une lutte quelque peu chaotique autour de la question de savoir ce qui était réellement donné ou non. Lutte dont le débat sur l'a priori a été un aspect essentiel, en un sens l'envers de cette question du donné. Or, une question à se poser est de savoir ce qui, dans tous les cas, était attendu des divers candidats à jouer le rôle de donné. À quel titre voulait-on que le donné soit donné? Eh bien, Austin nous dit, c'est toujours en tant qu'on attendait qu'il ait un sens. On l'attendait donné en tant que donné comme ayant un certain sens. À cet égard, la lutte entre le kantisme et l'empirisme, autour de laquelle, en un certain sens, ont largement tourné les deux derniers siècles de philosophie, sous des formes différentes, et tourne encore, de fait, à sa façon, une large part de la philosophie d'aujourd'hui, a de fait quelque chose du jeu de dupes. L'empirisme oppose au kantisme, et à ses sous-produits plus récents, le retour aux données. Il faut cependant remarquer que le donné, historiquement, n'est pas initialement un terme de l'empirisme. On ne le trouve pas du tout, chez les empiristes anglais, comme on dit classique, avant Kant, on ne le trouve pas. Ou on le trouve ponctuellement, et certainement pas au sens du donné, comme dans l'esthétique transcendantale. En fait, c'est une invention kantienne, c'est un produit du kantisme, cette institution du donné en tant que donné. En un certain sens, le donné ne devient donné que là où il est traité comme ayant un sens, fût-il minimal, ou en tout cas là où est essentiellement posée la question de son sens. En ce sens-là, l'analyse de la perception et de l'expérience sensible et en général en tant que donnée est profondément solidaire de ce mouvement qui consiste toujours à interpréter ces expériences comme ayant essentiellement un sens et étant données selon ce sens. C'est précisément dans ce présupposé du sens que vient s'engouffrer la contrainte de l'a priori comme prédétermination de l'expérience toujours déjà selon un sens. La question de l'a priori est essentiellement celle de la source, subjective ou objective, suivant l'oscillation propre à cette notion, du sens. Alors ça, on le voit bien chez Dufresne, où la notion de sens, la notion d'a priori, est partout. Mais cette notion, par là même, suppose que ce qui est considéré, symptomatiquement, de façon élective, le sensible, puisque c'est la référence à lui qui rend problématique le statut a priori ou non de certains concepts, le soit d'un point de vue suivant lequel il aurait nécessairement un sens, ou en tout cas, la question de son sens serait structurellement posée. La question devient dès lors essentiellement de savoir si les sensibles ont le sens qu'ils ont, a priori ou a posteriori. Mais c'est là supposer que ce qui les définirait essentiellement, ce serait d'avoir un sens et ce sens même. Détermination que sert à instituer leur qualification comme donnée. Or, comme le rappelle Austin à trois reprises dans son œuvre, c'est un énoncé clé, on revient toujours à des points stratégiques, senses, ou suivant les textes, sensa, c'est tanto senses, tanto sensa, suivant cette oscillation même, a dumb. Ils sont muets, ils sont bêtes, ils ne disent rien, ils ne pensent pas. Le problème n'est pas qu'est-ce qui y est dit, et le problème n'est même pas de savoir si c'est peu ou beaucoup qui y est dit. Le problème n'est pas de savoir par qui c'est dit, si c'est par moi ou par les choses. Et le problème n'est pas de savoir si c'est de façon structurelle ou de façon occurrente que c'est dit, si c'est a priori ou a posteriori. Une fois qu'on a renoncé à cette fiction suivant laquelle le sensible aurait essentiellement à avoir un sens, y compris dans son versant négatif, hein, y compris dans la dramaturgie de l'absence de sens, qui n'est qu'une variante de cette façon d'indexer toujours le sensible, toujours déjà la question du sens, une fois qu'on a renoncé à cette fiction, évidemment, la question de l'a priori, en tant que question de la source de ce sens, perd beaucoup de son urgence. Ce n'est pas cependant que selon la ligne de pente commune d'une pensée contemporaine, qui n'est en fait que le prolongement fatigué de la pensée moderne, l'a posteriori est ici finalement gagné contre l'a priori, c'est plutôt leur présupposé commun, facteur si ce n'est d'insensibilisation du sensible, en tout cas de sa domestication, qui d'une certaine façon se voit ici enfin remis à l'épreuve. Je vous remercie de votre attention.
Une question à propos justement de cette idée que vous avez développée à partir de l'écart du objectif, que l'a priori pourrait ne pas apparaître. Alors, est-ce que même l'idée d'un a priori, comment dire, contingent, est-ce que c'est pas un peu un carré rond? Est-ce que c'est vraiment pensable?
Oui. Il y a une chose. Bon, l'idée de l'a priori peut ne pas apparaître, c'est une formule de Dufresne qui évidemment est fascinante parce qu'elle donne vraiment une. En fond, à la fois, elle donne une consistance. Au fait que l'a priori passe en subjectif, versant objectif de l'a priori, puisque l'a priori peut nous être dérobé. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que pour autant, elle ne lâche pas le fil épistémique, bon, au sens large du terme, en le généralisant, puisque, évidemment, à partir du moment où la question est de ce qui peut apparaître, mais aussi ne pas apparaître, au fond, c'est quand même abordé toujours dans l'espace de la corrélation. C'est ce que j'ai appelé décorréler la corrélation, enfin, penser le fait que la corrélation est un espace dans lequel les choses peuvent être au rendez-vous. Ou pas, fondamentalement. Alors, je trouvais que c'était intéressant que Dufresne dise ça, parce que, évidemment, c'est très contre-intuitif par rapport à une certaine conception classiquement kantienne de l'a priori, où on dirait, l'a priori, bon, c'est ce qui est de toute façon toujours là, quoi. Donc, comment pourrait-il ne pas être au rendez-vous? Enfin, la seule solution pour que ce soit pas au rendez-vous, c'est ne pas penser. C'est arrêter de penser, ça peut dire. Donc, c'est un dehors, justement, qu'on peut pas se représenter. Alors, après, il y a la question de la contingence, qui est un peu différente, mais qui est aussi importante, je pense, pour Dufresne, très importante pour Dufresne. C'est, ce qui est intéressant, c'est que, à la fois, bien sûr, la contingence de ce qui, a priori, paraît impensable, puisque si c'est a priori, ben justement, c'est en amont, au fond, de toute variété qu'on pourrait constater, de tout écart qu'on pourrait constater. Mais en même temps, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'elle est pourtant nécessaire aussi. Nécessaire aussi parce que si, justement, s'il n'y a pas d'espace ouvert pour que ce qui a priori puisse être autrement, l'a priori, dans ce cas-là, bascule forcément dans la formalité. Il perd en consistance. D'où le caractère essentiel, à mes yeux, de ce qui se joue à la fin de l'esthétique transcendantale, avec ce moment très étrange où, au fond, Kant va ressaisir la contingence de l'esthétique en tant qu'esthétique transcendantale, pas en tant qu'esthétique empirique, puisqu'il y a quand même cette clause, ce point d'échappement, où finalement, on ne peut pas, bien sûr, poser métaphysiquement qu'il y a des êtres qui ont d'autres formes de sensibilité que nous, mais il est impossible de l'exclure. Il est impossible de l'exclure. Et alors, c'est important que ça soit y compris par la voie négative, comme ça, que ça ne soit pas présenté comme une thèse. Bien sûr, Kant ne peut pas se situer en surplomb d'un point de vue métaphysique qui mettrait à plat l'existence d'êtres ayant des constitutions de sensibilité de type différent. Mais en même temps, justement, on ne peut pas non plus l'exclure. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, ça, ce n'est pas vrai, bien sûr, pour les catégories. Pour l'analytique, ça n'a pas de sens. Et l'analytique ne fait pas objet. Fait pas objet d'exposition, elle fait objet de déduction. Alors que l'esthétique fait objet d'exposition, y compris au niveau transcendantal. Et ça, c'est vraiment lié. Alors, contingence, c'est peut-être pas le mot le plus approprié, mais à ce qu'on peut appeler la facticité, au fond, des formes a priori de la sensibilité, que sont l'espace et le temps, ce qui est une. c'est une facticité métaphysique, parce qu'il est aussi essentiel qu'il y ait exposition métaphysique, exposition transcendantale. Alors la lecture néo-kantienne a tendance à ressaisir l'exposition métaphysique par l'exposition transcendantale, faire comme si l'exposition transcendantale la récupérait sans reste, mais ce n'est pas vrai, parce que l'essentiel, au fond, est posé au départ, est posé dans l'exposition métaphysique, avec ce fait de la phénoménalité, et le fait que la phénoménalité est structurée suivant des formes a priori de la sensibilité, et que ce pas reflet de la sensibilité, en un certain sens, c'est un donné métaphysique, au sens où, en un certain sens, ben oui, effectivement, elle pourrait être autrement. En tout cas, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de clause de fermeture qui nous permettrait d'exclure qu'elle puisse être autrement. Alors que les catégories, bon, mais c'est dérivé de la fonction du jugement. À partir du moment où vous pensez c'est jugé, et on a la fonction du jugement, de toute façon, ben non, les catégories, ça coule de source, elles découlent finalement des fonctions du jugement, en tant qu'appliquées à une sensibilité, mais une sensibilité qui, après tout, pourrait être formée autrement du point de vue des formes sensibles. Alors évidemment, c'est purement spéculatif, au sens où qu'est-ce que serait une forme de sensibilité autre que l'espace et le temps? Pour nous, par définition, c'est représentable, mais c'est une sorte de fait métaphysique. Alors ça, c'est quelque chose qui était tout de même très, très central, je pense, dans le livre de Chenet sur l'esthétique transcendantale. Ça m'a toujours frappé, parce que j'ai toujours trouvé que ce livre, bon, il n'a pas été traîné dans la boue, hein, mais enfin, il n'a pas eu l'écho qu'il méritait, alors qu'au fond, c'est tout de même la seule lecture que je connaisse de Kant, de la critique, qui prennent vraiment au sérieux le caractère finalement un peu décalé de l'esthétique transcendantale par rapport au reste du texte, le fait que ben, là, il y a bien quelque chose qui est posé. On se heurte à une forme de facticité. Bon, idée qui, évidemment, a énormément embarrassé les néo-kantiens, dont la stratégie a toujours été d'essayer de réduire l'irréductibilité, au fond, de l'esthétique transcendantale. Alors, cette irréductibilité, je crois qu'elle est essentielle pour que des notions comme a priori et a posteriori gardent une consistance, gardent une épaisseur, pour qu'on bascule pas d'un a priori égale logique égale formel, au fond.
Bien une question. Est-ce que cette notion d'a priori a un sens encore dans un réalisme?
Ben ça, j'avoue que je ne sais pas. Parce que c'est, effectivement, je voyais venir cette question tout à l'heure. Je ne sais pas bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de malentendus qui circulent. Il y a une chose qu'il faut écarter, c'est il y a ce truc qu'on entend régulièrement qui est tout à fait stupéfiant. Enfin, quand on se place du point de vue un petit peu logique, qui est, ah ben oui, mais on parle de contextualisme. Si c'est contextualiste, dans ce cas-là, il n'y a pas d'universel, donc pas d'a priori. Bon, c'est absurde, puisque le contextualisme, c'est contextualisme, en fait, du jugement. C'est lié au fait qu'au fond, les concepts, ça s'applique. Et donc, pour appliquer un concept, évidemment, on est toujours obligé de tenir compte des circonstances d'application. Pourquoi? Non pas parce qu'elles relativisent quoi que ce soit, elles relativisent rien du tout, mais parce qu'elles déterminent la pensée qui est appliquée, au sens où, évidemment, en fond, l'idée est très simple, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Et savoir de quoi on parle, ben, c'est pas seulement l'objet qui est en face, mais c'est l'objet dans un certain contexte, et ce qui fait que ce qu'il est pertinent ou pas d'en penser se voit, évidemment, profondément déterminé par le contexte, et puis, au fond, ce qui est à évaluer est déterminé par le contexte. Après, la valeur de ce qui est évalué, elle n'a rien de contextuel, au sens où, une fois que le contenu est déterminé, ce contenu, si on est dans le registre épistémique, il est vrai ou faux. Et il n'a pas une valeur flottante, par définition. Mais en revanche, il importe de bien préciser exactement le contenu évalué. Le contenu évalué, il est déterminé par le contexte. En sens ça, ça s'oppose évidemment à aucune universalité. De toute façon, il n'y a pas de pensée. Pour des choses autrement, il n'y a pas de pensée qui ne soit pas générale. Mais souvent, on se fait une représentation de la généralité erronée. On pense à la généralité en termes d'extension. Et on se dit, ah ben général, ça veut dire que ça doit pouvoir s'appliquer à beaucoup d'objets, et puis universel, ça s'applique à tous les objets. Bon, rares sont les pensées dans ce cas-là. En revanche, la vraie généralité de la pensée, c'est pas celle-là. La vraie généralité de la pensée, c'est la réitérabilité. C'est la capacité à être mobilisée en des occurrences différentes. Alors le paradoxe, c'est que pour être mobilisable dans des occurrences différentes, une pensée, en fait, elle suppose le contexte. Au sens où ce qui la rend applicable dans telle ou telle occurrence, c'est un certain contexte. En revanche, si on essaie de l'appliquer sans tenir compte du contexte, souvent la pensée est purement et simplement non pertinente, inadéquate. Souvent elle donne rien, elle est inévaluable dans ce contexte-là. Donc en réalité, la contextualisation, c'est toujours une opération qui permet de déterminer de la réidentification, de la réapplication, qui permet d'identifier la capacité d'une récurrence, la capacité de faire revenir une certaine pensée. C'est le prix à payer pour qu'une certaine pensée puisse revenir et puisse s'appliquer. Donc en sens-là, c'est plutôt au fond la condition de la vraie universalité, la condition du fait qu'une pensée puisse réellement s'appliquer dans une liste infinie, une liste ouverte de cas, que le contraire, hein, si c'est ça l'universalité logique. Alors après, quel rapport ça a avec la question de l'a priori? Je suis pas sûr. Pour une raison simple, c'est que au fond, la question de l'a priori me paraît tellement liée à ce tête-à-tête, au fond, de la pensée moderne avec le donné, qu'à partir du moment où on est conduit à douter de la pertinence d'une notion de données, ce qui ne veut pas dire l'éliminer, hein, mais ce qui veut dire la limiter, considérer qu'elle peut être pertinente là où il y a moyen de la mettre en contraste avec quelque chose précisément, mais on ne peut pas l'appliquer comme équation générale au fond de la question de la connaissance ou de l'expérience. Évidemment, c'est pas évident de savoir si on a priori peut résister à cette transposition-là.
Oui, parce que tout l'intérêt de ce que vous nous avez dit et ce qui est dit aussi dans les livres qui... Enfin, ce que j'ai fait circuler, c'est justement de montrer comment une certaine forme d'opposition ou déconstruction est en réalité tributaire, quoi, de cette notion d'a priori. Et c'est, il me semble, le très grand intérêt de ce que vous faites, c'est-à-dire c'est finalement un travail assez critique, si je puis dire, de destruction aussi, oui. de peut-être de faux problèmes.
Disons, ce qui est certain, c'est que il y a une tendance de la pensée, enfin, ce qu'on appelle postmoderne, c'est un concept peu déterminé, mais par postmoderne, j'entends la pensée qui prétend justement se situer au-delà de cet héritage kantien, qui nous dirait, maintenant, on est passé à autre chose. Il y a bien des façons de dire ça et puis d'entendre ça, mais c'est une tendance qui a pu se faire jour, au fond, dans le XXe siècle et dans la fin du XXe siècle. Ce qui me frappe toujours, moi, je suis toujours très méfiant, tout simplement parce que j'ai souvent l'impression que, par exemple, un aspect du problème serait de dire, on veut se débarrasser de l'a priori. Celui qui dit on veut se débarrasser de l'a priori, je suis forcément méfiant parce que je me dis, si la question l'aimante à ce point, par définition, ça veut dire qu'il est dedans. Ça veut dire qu'il est encore dedans, au sens où, en réalité, pour que c'est un sens, il faut être aimanté par cet espace de problème. C'est pour ça, par exemple, que je tenais à essayer de montrer, je ne sais pas si je vais arriver, que... en réalité, il y a toute une façon de remettre en question l'a priori en tant qu'a priori subjectif, dire attention, il faut quelque chose en face, qui se présente comme une critique de la subjectivité. Mais sauf qu'en réalité, ce prurit n'a de sens que pour celui qui raisonne en termes subjectivistes, qui sont ceux de la modernité, et celui qui... il faut avoir l'impression d'être emprisonné dans sa subjectivité pour vouloir en sortir. Donc en ce sens-là, on a très vite affaire à quelque chose qui est une image négative de la certitude qu'elle prétend remettre en question. Et alors, c'est ça, au fond, ma réticence, ma réserve par rapport au postmodernisme au sens très large, très générique du terme, c'est que souvent, j'ai l'impression de voir une version négativisée de la modernité. Alors qu'en un sens, j'aurais beaucoup moins contre la modernité qu'eux, au sens où, pourquoi pas, quand... Il faut démonter sa logique, il faut voir quels sont les présupposés, il faut voir sous quelles conditions ça a un sens de poser le problème dans ces termes-là. Mais inversement, je me sens beaucoup moins moderne qu'eux, parce que d'un autre côté, en revanche, avoir cette obsession, par exemple, de réontologiser, pourquoi il faudrait réontologiser? On a besoin de réontologiser que si on a perdu l'ontologie, enfin si on est sur un terrain où l'ontologie va plus de soi pour certaines raisons, ce qui suppose qu'on soit placé soi-même dans une certaine situation. Donc en ce sens-là, c'est vrai que ma démarche généralement est plutôt d'interroger les présupposés de la critique. Il faut faire la critique de la critique, non pas pour revenir à un point de vue non critique, mais pour s'interroger sur ce que suppose quelqu'un qui vous dit... c'est vrai, quand quelqu'un vous dit, moi je ne sais pas, il y a un problème, on a perdu le sujet, ou on a perdu l'universel, j'ai envie de lui dire, mais où l'avais-tu donc? Où l'avais-tu donc avant, dans ce cas-là, mais pas polémiquement, mais au sens où dans ce cas-là, il faut expliquer quelles sont les conditions sur lesquelles on peut avoir l'impression que quelque chose manque.
C'est ça qui est remarquable dans votre travail, indépendamment de vos positions, j'allais presque dire indépendamment de vos positions philosophiques, c'est la capacité que vous avez à revenir quand même sur un parcours qui est aussi le vôtre et dans lequel, évidemment, certains restent, j'allais dire, jusqu'au bout, alors que vous avez une capacité à vous en échapper. Alors, c'est peut-être grâce à la philosophie analytique, sans doute, mais qui laisse tout à fait admiratif, parce que vous n'êtes dupe, en réalité, ni de l'un ni de l'autre.
Et oui, c'est très gentil, c'est
rare.
C'est très généreux, mais simplement ce que je voulais dire, c'est ça qui expliquait ma gêne un petit peu quand j'ai commencé à préparer l'exposé, c'est que c'est vrai que, au fond, J'avais accepté, bon, un peu comme ça, en me disant, bah, oui, cette question m'a beaucoup intéressé. Et c'est vrai que c'était pas évident pour moi qu'elle ait de nouveau un sens. Quoi. Alors après, quand on regarde de près, je trouve un sens, parce qu'on s'intéresse à des pensées, on voit des dispositifs mis en place, et on se rend compte que à chaque fois, ça permet de voir des choses. Mais c'est vrai que c'était un peu sorti de mon champ. D'où le fait que c'est pas du tout coquetterie de ma part, mais c'est vrai que quand je suis allé regarder mon vieux livre sur la notion d'a priori, je me suis dit, mais au fond, de quoi ça parle? De quoi s'agit-il, quoi? Ce qui ne veut pas dire du tout que je sois contre l'a priori, c'est pas ça la question, mais simplement, j'avais du mal à comprendre, à me resituer de nouveau dans les coordonnées, cet espace de problème, effectivement.
Alors, j'ai vu un doigt. Allez-y. Vous pouvez enlever votre masque pour parler, poser votre question.
Merci. Alors, vous reveniez au début sur l'a priori comme notion polaire. On ne pouvait pas avoir un a priori sans penser à la posteriori. Et je voulais savoir, en réalité, est-ce que finalement on ne confondrait pas, in fine, l'a priori et la posteriori? Et notamment en faisant mention de l'a priori comme un a priori épistémologique, est-ce qu'on pourrait se débarrasser totalement de l'a priori ontologique?
Alors, c'est deux questions un peu différentes. La première question, bon, au fond, hein, l'idée d'un avant, ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte en elle constituant la référence à un après, pas seulement en termes de contraste, mais au sens où il y a même l'idée que l'avant, ben, il prépare quelque chose, ou en tout cas, il saute sur quelque chose. Donc, c'est en ce sens-là que je pense que c'est important de saisir cette notion d'a priori, toujours dans le rapport avec la notion d'a posteriori. C'est pas juste deux choses différentes qu'on distingue, c'est deux notions qui font système et qui se pensent essentiellement dans le rapport l'une à l'autre. Alors, si j'ai mis en garde contre une approche d'a priori qui l'isolerait, couperait ce lien avec la notion d'a posteriori, c'est parce que, parfois, on a l'impression, au fond, que la question de l'a priori devient une question purement intrinsèque, au sens où, voilà, est-ce qu'on a des connaissances a priori ou pas? Et si elles satisfont un certain nombre de normes, bon, ben, oui, dans ce cas, c'est une connaissance a priori. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que ça soit chez les médiévaux, avec l'opposition entre deux voies de raisonnement, ou que ça soit dans la pensée moderne à partir de Kant, en termes de... Enfin, j'allais dire à partir de Kant, en termes de distinction entre deux connaissances. En réalité, c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai trouvé l'emploi de connaissances a priori avant Kant. Hein. S'il ne me trompe pas, je crois, par exemple, vous trouverez des passages chez Malebranche où il y a connaissances a priori. Donc, c'est pas le syntagme, mais pas non plus une invention purement kantienne. Mais donc, c'est Kant qui systématise, quoi, l'opposition d'a priori et d'a posteriori en termes de connaissances. Ce qui me paraît important, c'est que dans ces cas-là, c'est pas juste une classification, hein, c'est pas juste, voilà, qu'il y a deux types de connaissances d'un côté de l'autre. En fait, ces connaissances ont un rapport, elles font système, sont à penser dans un certain type de rapport. Alors, est-ce qu'on risque pas de supprimer leur distinction, la confusion? En un certain sens, la question se pose forcément, puisque dans l'histoire de la notion d'a priori, on voit bien que la tendance après Kant, sur les deux siècles de philosophie qui suivent Kant, c'est au fond, pour sauver l'a priori du risque, justement, d'une formalité, d'essayer de le relester toutes sortes de choses. Et ces choses, ben, effectivement, généralement, on va les emprunter, forcément, à ce qui se présente d'abord, hein, comme de l'a posteriori. Alors, en un sens, c'est très frappant, bien sûr, chez Dufresne, parce que Dufresne va rendre l'a priori très, très concret, l'incarner, donc il va aller chercher des choses qui ont l'air empiriques. Alors, en même temps, chez Dufresne, il y a une conscience aiguë du fait que ça ne peut continuer à mériter le nom d'a priori que s'il y a de l'écart, que si ça s'écrase pas sur la positivité d'un donné, et notamment ça passe d'ailleurs par l'importance chez Dufresne, c'est très intéressant, du thème de la généralité, hein, qui est très très intéressant, parce que Dufresne va très loin dans la singularisation, dans l'approche de concrétion, qui voit une valeur a priori, mais en même temps, attention, ça ne peut demeurer de l'a priori que si ça a une forme de généralité qui fait que ça va pouvoir s'instancier dans des cas différents, des occurrences différentes. Donc, chez Dufresne, typiquement, là, vous trouvez une tendance à faire remonter de plus en plus d'a posteriori dans l'a priori, mais en même temps avec le fait que ça va être qualifié comme a priori dans la mesure où c'est pensable comme étant un a priori pour des choses a posteriori qui vont venir, au fond, être... être qualifiés quoi, par cette norme-là. Bon, c'est moi qui en parle le mot norme, mais en tout cas, qui vont venir répondre à la forme de généralité mise en place par cet a priori. Si singularisé qu'était cet a priori, il demeure fondamentalement le principe de généralité, donc il y a toujours de l'écart qui subsiste entre cet a priori en tant qu'a priori et les choses a posteriori qui vont venir lui répondre. Donc Dufresne, je pense, permet de bien poser cette question de la contamination éventuelle de l'a priori par l'a posteriori et des conditions sous lesquelles on empêche l'écrasement, on empêche la confusion. Puisqu'à la fois, il va très loin dans une sorte de réempiricisation de l'a priori et en même temps, il requalifie toujours comme a priori ce qu'il pointe en marquant bien un écart. Alors après, est-ce qu'on peut se réfugier d'une stratégie qui consisterait à traiter l'a priori comme purement épistémique? Oui, probablement que chez Kant, il y a une aspiration comme ça, en un sens. Mais alors, le risque, dans ce cas-là, c'est que plus on le traite comme purement épistémique, plus on risque, finalement, de réduire l'a priori à la sphère de l'analyticité. Plus il est difficile de rendre l'a priori capable d'accueillir vraiment quelque chose d'autre que la pensée. Or, la notion, au départ, elle a tout de même été faite pour ça. Son intérêt, c'est de penser la capacité de la pensée à s'ouvrir à quelque chose d'autre qu'elle. Donc, au fond, le risque, c'est qu'à trop minimaliser la notion d'a priori, on l'exténue, on finit par faire disparaître son intérêt propre. C'est pour ça que cette espèce de spectralité de l'ontologique dans l'épistémique, qui caractérise la question de l'a priori ces deux derniers siècles de philosophie, je pense qu'elle doit rien au hasard. C'est pas juste une correction, c'est pas juste que les lecteurs de Kant auraient été très malheureux, finalement, d'avoir affaire à une pensée aussi formaliste, avec un sujet abstrait, formel. C'est qu'en fait, c'est un problème dont on trouve la source chez Kant lui-même, qui est que, au fond, c'est ce qui est déjà marqué chez Kant par le refus de se contenter de l'analyticité, de ce refus de se contenter de la simple opposition analyticité d'un côté, a posteriori de l'autre. Il faut autre chose. C'est ça que je voulais dire en disant que la question du synthétique a priori, c'est pas juste une application du problème de l'a priori chez Kant, c'est vraiment en fait son cœur, c'est vraiment ce qui qualifie sa pensée de l'a priori comme étant une pensée de l'a priori. Or, le synthétique a priori, en un certain sens, c'est une zone d'empiètement, hein, justement, c'est une zone d'ambiguïté entre a priori et a posteriori. C'est ça qui explique l'histoire de cette notion au XXe siècle. Au XXe siècle, dans la philosophie, en tout cas dans la proto-philosophie analytique, si tout le monde a tiré sur la notion de synthétique a priori, c'est justement pour désambiguer, pour essayer de désintriquer, au fond, la pensée d'un côté, et puis l'expérience ou le réel de l'autre, avec évidemment cette tension entre empirisme et réalisme. Alors, en un sens, la question de l'a priori depuis Kant marque la difficulté d'opérer ce partage si simple, et puis de reverser d'un côté ce qui est épistémique au compte de l'épistémique et ce qui est ontologique au compte de l'ontologie pure, quoi. Donc c'est un peu cette ambiguïté que j'ai essayé de suivre à travers l'usage de cette notion a priori sur les deux derniers siècles.
Oui.
Des formes, oui, des formes a priori de la sensibilité.
Des formes a priori de la sensibilité, parce que je me demandais justement si cette facticité ne faisait pas signe vers un autre mouvement de pensée qui n'aurait pas consisté à réduire ou à éliminer l'a priori, mais au contraire à tenter de le pluraliser.
Oui. Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Évidemment, en compte cette facticité comme facticité, c'est-à-dire cette idée qu'il pourrait y avoir d'autres formes, a priori, de la sensibilité, qu'on tâchait d'en prendre la mesure. Donc là, cette fois-ci, ça ne consisterait pas à tâcher de réduire l'a priori, mais il reviendrait quand même par la fenêtre, mais vraiment tenter de pluraliser l'a priori.
Oui, oui, mais cette facticité, de toute façon, elle n'est pas du tout contradictoire avec son a priori. Elle en est la condition. Hein. Elle en est la condition. Donc, c'est quand j'invoquais cette dimension de facticité transcendantale qu'on trouve au cœur de l'esthétique transcendantale, c'était pas du tout à ce moment-là pour récuser la notion d'a priori. C'était plutôt pour essayer de montrer ce en quoi, chez Kant, pour que la notion d'a priori ait une épaisseur, une consistance, il fallait quelque chose comme ça. Il faut bien, pour paraphraser Dufresne, il faut bien qu'en un certain sens, le sujet ait une nature. Mais évidemment, une nature qui pose plein de problèmes, parce que c'est pas la nature du naturalisme, c'est pas la nature justement réduite, hein, c'est la nature, c'est une nature transcendantale, pour autant que cette notion ait un sens. Mais justement, je pense qu'au fond, une des questions liées à la notion moderne d'a priori, c'est le caractère inévitable de la supposition de quelque chose comme une nature transcendantale. Alors après, une fois qu'on a fait ce pas-là, cette nature, ben oui, effectivement, bien sûr qu'il n'est pas impossible de la pluraliser. En tout cas, c'est la question posée par la fin de l'esthétique, hein, qui nous dit deux choses, qui nous dit au fond que on ne peut pas le faire, parce que justement, ça serait sortir hein, de notre du régime, au fond, de l'esthétique, de l'esthétisme pour nous, mais qu'en même temps, on ne peut pas exclure. On ne peut pas exclure qu'il y ait d'autres êtres qui aient les mêmes formes de la sensibilité que nous, mais évidemment, on ne peut pas non plus exclure qu'ils en aient d'autres. À ce niveau-là, il y a une sorte de point de fuite hein, de la construction transcendantale. Alors après, que certaines philosophies plus spéculativement investissent ce point de fuite et puis envisagent une sorte de variabilité métaphysique, en sorte d'a priori, c'est pas illogique. Hein, c'est s'engouffrer dans cette possibilité que la critique laisse ici en creux, qui est comme indiqué négativement, au fond, par la critique.
Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Bon, en gros, ce que vous nous dites, c'est que ça a été un très mauvais thème de séminaire.
Ah non, pas du tout. pas du tout, parce que grâce à vous, j'étais conduit à relire plein de textes et qui sont très intéressants. Notamment, je le disais tout à l'heure en privé, mais c'est vrai que c'est amusant, mais c'est très intéressant, mettant sociologiquement sur le champ de la philosophie française. La notion, j'ai malheureusement pas eu le temps de prendre encore connaissance hein, de l'inventaire d'a priori. Bon, je salue sa réédition, c'est vraiment une super idée. C'est texte vraiment intéressant. Enfin, j'ai un peu regardé, mais j'ai pas eu le temps de lire systématiquement. Mais par votre faute, j'étais obligé de relire donc la notion d'a priori. Et c'était très amusant comme expérience, parce que quand j'étais jeune, dans la formation phénoménologique, c'est une des premières choses que j'ai lues. Ça faisait partie, au fond, du bagage d'introduction à la phénoménologie. Et évidemment, dans ma génération, la phénoménologie française était une phénoménologie marquée ben, d'abord par Heidegger, un heideggerisme un peu automatique, hein, qui était on a dépassé tout ça, on est au-delà du sujet, tout ça, c'est l'histoire de la métaphysique, c'est périmé. Et donc, j'avais lu Dufresne, puis j'avais trouvé ça bon, très commode, très clair, très gentil. Et je m'étais dit, bon, oui, mais c'est même très léger, c'est pas du tout comme Heidegger. Je n'ai pas regardé depuis ce temps-là. Je le lis là pour le séminaire, et évidemment, j'ai une toute autre impression, puisque lisant ça non prévenu, n'étant plus là-dedans, ben, je découvre un texte, évidemment, d'une très très grande sophistication, extrêmement intéressant, que ça soit par sa finesse, sa capacité de détecter hein, des choses, ou que ça soit aussi, justement, par sa résistance, sa forme de résistance, y compris son conservatisme relatif en un sens, camper une position au maintien du sujet, humanisme, ben ça donne en fait un discours phénoménologique qui est très différent, bien sûr, hein, de celui de Heidegger et de tout ce qui en a résulté, et qui, pour le coup, donne un sens, conserve une consistance forte à des concepts comme ceux d'a priori, et c'est extrêmement riche. Donc merci à vous de m'avoir obligé involontairement à relire ça, et je trouve ça super intéressant, c'est une très très belle idée. Un séminaire comme ça, et puis si ça permet justement de réinvestir tout ce que Dufresne a fait de ce côté-là, dans toute la polyphonie hein, de son approche de notions comme celle-là, c'est formidable, ça vaut vraiment la peine. Donc non, je suis pas content de ne pas avoir eu le temps de faire quelque chose de plus précis, mais je suis content d'avoir été obligé de regarder un peu de nouveau ces choses grâce à vous.
Bien, et s'il n'y a pas d'autres questions, non ? Apparemment non. Mais on va arrêter là, et puis on va vous remercier chaleureusement.
Merci à vous.